Donc je disais, Catherine Ferron a donné son pouvoir à Elisabeth Bonomo qui l'accepte.
Oui.
Christian Julien.
Présent.
Victor Passarella n'est pas arrivé. Patrice Auret n'est pas arrivé. Estelle Grumet a donné son pouvoir à Angélique Pujol
qui l'accepte.
Tamaris Carotti.
Présent.
Lionel Gauthier.
Présent.
Et Véronique.
Présent.
Merci. Il nous faut approuver.
Avançant.
Il nous faut approuver les deux comptes rendus des conseils municipaux du 15 juin 2023 et du conseil municipal extraordinaire du 12 juillet 2023. Est-ce que vous aviez des remarques ?
C'est clair d'abord.
C'est non, c'est après. J'ai demandé. Je vous dis après.
Non, parce que la dernière fois, on a fait comme ça, puis après, on a fait comme ça.
Plus sérieusement, est-ce qu'il y avait des remarques sur les deux derniers conseils municipaux qui sont donnés à votre approbation ce soir? Pas de remarques, donc je procède au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Les abstentions adoptées, je vous remercie. Et tout de suite, il est temps de désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Le suspense est à son comble. Christian ?
Ah, moi, s'il veut le faire, il n'y a pas de souci.
C'est donc Christian Julien, ce soir. Et je le remercie. Donc nous devions commencer par l'urbanisme et la présentation du PADD par le cabinet d'EBR. Alors est-ce qu'il y a eu de gros orages à Meximieux ou à Lyon? Je ne sais pas. Simplement vous dire avant qu'ils arrivent, et j'espère qu'ils vont arriver bientôt, que donc lors de du conseil municipal du 21 octobre 2021, nous nous sommes engagés à réviser le PLU. L'actuel a été approuvé le 13 novembre 2015 et il n'est plus adapté à la commune. Nous avons eu plusieurs réunions de travail en présence donc du cabinet d'EBR qui est le prestataire qui avait été retenu pour la révision. Et celui-ci doit nous présenter une des phases d'avancement du projet, qui est donc le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, qui représente une des étapes obligatoires dans la révision du PLU. Ce PADD détermine les grandes orientations d'aménagement du territoire pour les années à venir à partir des enjeux identifiés au sein du diagnostic. Il expose le projet d'urbanisme et définit les orientations générales d'aménagement, d'urbanisme, d'habitat, de déplacement, d'équipement, de protection des espaces et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Donc j'espère que le cabinet d'EBR va arriver bientôt. Rappelez également, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le quart d'heure citoyen, que ce soir, bien évidemment, il ne sera présenté aucun zonage. Ce n'est pas du tout l'objet de cette présentation. Et qu'il est important que tout le monde, tous les Tillois, puissent, s'ils le souhaitent, eh bien, faire part de leurs souhaits sur le cahier qui est à disposition à la mairie. Alors, soit sous forme de mail, et en fait on imprime le document et on le colle sur le cahier, et quand on commencera à travailler sur eh bien, les zonages et les souhaits des habitants, eh bien, les souhaits seront pris en compte ou pas, et il sera répondu aux personnes à la suite. Voilà. Donc, en attendant le cabinet d'EBR, nous allons donc passer au point 2 de ce conseil municipal, qui était la présentation de Lionel. Alors, à savoir que Mme Isabelle Rouvière, elle a fait part de sa démission en tant que conseillère municipale en date du 1er mai 2023, qui a été actée le 2 mai 2023, qu'il convient donc de la remplacer. Nous avons pris des renseignements auprès de la préfecture de l'Ain. La personne qui devait intégrer le conseil municipal est celle se situant juste après la dernière personne élue lors de l'élection municipale de 2020. Le tableau est déposé en préfecture pour ceux qui souhaitent le consulter. Ainsi, c'était Mme Véronique Vérogory qui était la suivante sur la liste. Celle-ci a été contactée, mais elle ne souhaitait pas intégrer le conseil municipal. Mme Vérogory nous a donc fait part de sa démission. Et la personne suivante est M. Lionel Gauthier, qui avait accepté donc à l'époque les fonctions de conseiller municipal. Et on l'en remercie. Il était excusé au conseil municipal du 15 juin. Il n'avait pu se présenter. Et donc, étant présent à ce jour, la parole lui est donnée. Juste simplement une présentation depuis.
suis M. Gauthier-Lionel, ça fait une dizaine d'années que j'habite à Tilleul. Ah, je me suis présenté là comme conseiller pour savoir un peu ce qui se passe dans la commune, les aménagements, les changements, et puis voilà. Je pense que ça doit être une bonne expérience.
Bien, et ben on te souhaite en tout cas la bienvenue, Lionel, et très heureux de t'accueillir parmi notre équipe. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions de...
Non.
On va aller voir, c'est gentil.
Il attendait dans la mairie.
Il était au courant.
Ouais, c'est ça, oui.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Attends, monsieur, la circulation est difficile.
Voilà, on a pensé qu'avec l'orage, peut-être que vous aviez quelques soucis. Donc, si vous voulez, vous avez une clé.
Oui,
voilà. Donc, on va pouvoir reprendre le point 1, finalement, du conseil municipal, à savoir la présentation. Et monsieur Ramel aussi.
Oui, monsieur Ramel est en route aussi.
D'accord.
Merci beaucoup.
Vous allez vous mettre au milieu du coup.
Vous mettez au milieu.
Comme ça, vous avez l'ordi. Et puis, il y a le micro qui est là. Et nous, on va se décaler.
C'est
l'ordre principal que tu as dans les deux jours.
C'était, vous étiez le point
numéro 1.
Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que si vous voulez vous décaler un petit peu sur le côté? Asseyez-vous, madame, vous mettez votre chaise là. Donc, on va laisser le cabinet de BR nous présenter le PAVD. Si on a des questions, on intervient après, c'est ça?
Ou en cours de
vote. Ou en cours, comme on veut. Alors, ce n'est pas si vous soumis au vote, hein, c'est juste un débat. C'est vraiment histoire de poser toutes les questions que vous souhaitez.
Je vais peut-être pouvoir faire l'introduction et
allez,
puis
ça va le faire venir.
Oui, voilà. Alors, comme Madame le maire a commencé à dire, on va vous présenter le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme. Donc, c'est un peu une pièce maîtresse du PLU. Donc, le PLU est en cours de révision générale. Jusqu'à présent, on était plus sur ce qu'on appelle l'étude de cadrage, qui a permis de poser les grandes problématiques et d'identifier les principaux enjeux sur la commune. Donc c'est un travail qu'on a fait avec la commission urbanisme de la commune. Donc tout le monde a déjà connu dans la première révision générale
Oui, je pense. Oui, tout le monde tout le conseil, oui, connaît,
d'accord.
connaît le PLU actuel de la commune.
D'accord, très bien. Donc, le PLU en vigueur, pour rappel, a été approuvé le 13 mars 2015.
Novembre.
C'est novembre. Ah, bah, 13 novembre de, 2015. Et aujourd'hui, le...
Ah bah voilà.
Ah bah voilà, c'est bon.
J'étais à la chine,
là, voilà. Merci. Au centre.
C'est une autre possibilité.
Excusez-nous, mais...
Oh, on s'est dit que la météo avait peut-être été un peu
la circulation
embêtante.
Il y a un accident à sortie de Lyon, mais par le haut, le bois est tout bouché.
D'accord. Donc, on a un tout petit peu commencé et puis on a changé un peu l'ordre et on vous donne, la parole.
Bon, t'écoutes, Pauline.
Ah bah, c'est gentil,
non, bon, allez, go. Bonsoir à tous. Donc, oui, Marvin a dû vous le dire, pourquoi réviser ? À un moment donné, il faut se mettre en conformité avec la loi. Ça, c'est le premier point, puisque malheureusement, je ne sais pas comment il faut se positionner. Mais de nombreuses lois sont arrivées depuis 2008 et sont beaucoup renforcées en 14, 15, 16, 17 et 18 jusqu'à 21. C'est-à-dire en la matière, on n'est pas au manque de... On ne veut pas s'embêter parce que quelquefois ce qu'on dit aujourd'hui n'est pas vrai demain. Mais bon, c'est ainsi. Le PLU, il a une compétence communale pour vous, il s'inscrit dans tous les textes législatifs, c'est ce qu'on évoquait, et c'est vraiment un document de planification. Mais c'est un document aussi, on le verra dans le PRDD, à un moment donné, c'est vraiment un moment où les élus, et excusez-moi de ma trivialité, posent leur trip sur la table en se disant, finalement, comment on voit notre commune demain dans le développement. Et ça, je crois que c'est important. Ce n'est pas simplement des textes qui sont, certes, qui sont imposés. On ne pourra pas faire autrement, mais à un moment donné, il y a une part de volonté aussi et des constats. Par contre, on a un point très important, c'est qu'il y a une loi qui est arrivée le 21 août 22, qui est primordiale, qui s'appelle la loi d'artificialisation. Zéro. Pour faire très clair, c'est un dogme qui a été posé par l'État. Ces propos n'engagent que nous, urbanistes. Hein, n'engagent pas la collectivité, soyons très clairs. Mais en tout cas, le dogme qui a été posé, c'est ce qu'on faisait comme ça en étalement urbain, on ne pourra plus le faire. Il va falloir le faire maintenant comme ça. Donc il va falloir, alors ce n'est pas le cas de vos communes, ce n'est pas demain à Tille qu'on trouvera des gratte-ciels, ça va se savoir, mais en tout cas, en la matière, l'un des points qui est important, c'est qu'on ne peut plus continuer l'étalement urbain comme il a été donné. Et donc l'État nous dit à un moment donné, il faut absolument que vous réfléchissiez sur l'évolution de ce point et que vous réduisiez vos zones d'urbanisation. Il ne faut pas se raconter l'histoire, il y a ça de texte, la conclusion elle est simple, il y a une loi qui est comme ça, il y a un décret d'application qui fait... comme 1700 pages en la matière, et là-dessus, il est clair là-dessus, sur ces points-là, il faut réduire les poches d'urbanisation. Donc, qui dit à un moment donné réduire les poches d'urbanisation, dit densifier. Sauf que sur TIL, il y a quand même un petit problème de fond, c'est que vous avez vécu quand même une densification, c'est-à-dire les dents creuses, les terrains qui étaient vides, il y a eu des divisions, puis il y a eu des constructions. Sauf que ça se serait si vous aviez des voiries qui étaient importantes en calibrage. C'est pas le cas. Et derrière, il y a des problèmes sécuritaires qui peuvent s'engendrer. Imaginons qu'il y ait plusieurs constructions encore qui continuent, et beaucoup de constructions qui continuent. Vos voiries telles qu'elles sont calibrées ne permettent plus de réceptionner le rapport nombre de voitures et nombre de constructions. Pourquoi ? Parce que, il y a quelques années, un temps certain, nous étions à cheval, on a évolué depuis, on a eu une voiture, deux voitures, et maintenant si vous avez un couple et deux gamins, moi j'en ai trois de gamins, hein, et on est deux, il y a cinq bagnoles, c'est pas compliqué. Donc c'est la grande question de fond qui se pose, c'est que vous multipliez ça même par 10, ça en fait 50 par rapport à un ratio qui devrait être de 2, il y en a 32 trous. Et en plus, comme on le voit avec l'artificialisation zéro et tous les textes qui sont produits, c'est que malheureusement, de petit à petit, depuis 2000, les terrains se sont réduits. Il a été enlevé dans le code de l'urbanisme le minimum de surface. Ceux qui ont connu le poste avant 2000, on disait c'est 800, 1000 m² minimum pour construire. En 2000, complètement illégal. il n'y a plus de possibilité d'imposer des minimums de surface. Pourquoi ? Parce que la loi a dit à un moment donné, ben, en faisant ça, on va faire tomber le prix du terrain. Ah ben, ça a été magnifique. C'est le meilleur classement qu'on a depuis 2000. Et c'est entre 8 et 12% la terre. Et là, depuis 4 ans, c'est plutôt 16 à 17%. Donc, en fait, d'une volonté, alors, j'y mets le ton de la boutade, mais de la volonté de dire, il faut qu'on essaye de stabiliser en n'imposant pas des surfaces de terrain, bon, on a vu ce que ça donne, c'est qu'on a des divisions de tous les côtés, et quelquefois, les gens n'achètent plus des mètres carrés, ils achètent des lots. Mais l'aménageur, il n'est pas fou, il vendait avant des lots de 1000 mètres carrés, maintenant, enfin des terrains de 1000 mètres, maintenant il vend des lots de 300, 400. Donc ce qui était sur 1000, on en fait 2. Puis là, je parle en tant qu'urbaniste, mais quand je suis architecte et que je dessine des projets, vous me donnez un crayon, j'en mets même un peu plus. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, les bagnoles ont réduit, et les voitures ont dit, bah, elles sont vachement bien sur le domaine public. Et après, c'est à la collectivité de le gérer, avec tous les problèmes sécuritaires qu'on peut avoir. Et vous l'avez déjà commencé, vous avez commencé à le traiter avec la rue, vous m'en excusez, je ne sais plus le nom, quand j'arrive de Montluel et que je viens sur l'église. Je disais celle-ci, je ne l'ai pas vue dans la liste. Donc sur cette partie-là, cette voirie, vous avez fait un sens de circulation, parce qu'à un moment donné, il faut trouver des solutions. Et puis on a à la fois, et c'est compliqué à entendre, mais des demandes, et c'est légitime, par la population avec des mouvements de pensée mais qui évoluent, où on dit, ben, il faut faire du trottoir, il faut faire des pistes vélo, il faut mettre de la voiture, sauf que les maisons ne sont pas sur roulettes. Donc à un moment donné, dans ce même gabarit, il faut trouver impérativement ces structures qui permettent de répondre à l'attente des habitants, ce qui est légitime. Il y a une évolution de société, on parle de la mobilité, on en parle beaucoup, et là je referai un petit coup de plaisanterie, c'est bien la mobilité. Mais ces grands textes sont bien dans les métropoles comme à Lyon ou autres. A-t-il le jour où on aura un métro, puis qu'on aura des réseaux de pistes vélo de partout, ça va se savoir. Donc, on est dans ce qu'on appelle la deuxième couronne d'urbanisation, ou pour d'autres la troisième couronne. C'est bien beau de pouvoir l'écrire dans les textes, c'est très compliqué de l'appliquer. Et en plus, et j'insiste fortement, dans votre commune, vous avez un tissu urbain qui est très serré. Donc ça, c'est compliqué. Nous, on fait d'autres PLU, pas très loin, ben, Saint-Maurice de Bénouvre. On n'a pas du tout les mêmes tailles de tissu urbain, même dans l'ancien tissu. On a des voies qui sont plus larges et on peut organiser autrement. Vous, c'est pas le cas. Et ça, c'est compliqué. Et tout ça, ça serait vachement simple si, en plus, il n'y avait pas un problème d'eau. D'eau du Rhône. Et là, on a un PPRI, un plan de protection des risques de mobilité, qui est là et qui vous dit, à un moment donné, au stop, au drame, on a des zones rouges, on n'urbanise pas. On a des zones bleues, on urbanise sous condition. Et il y a des zones blanches où on peut y aller. Sauf que les zones blanches, ben, ce n'est pas où on les attend. Hein. Elles sont plus repoussées. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, avec l'ensemble de tous ces textes, eh ben, il faut qu'on compose l'ensemble d'un document d'urbanisme qui n'a plus rien à voir pour certains s'ils l'ont vécu avant 2000 ou même 2015. Honnêtement, on a un changement radical. Donc une fois qu'on s'est dit, il faut quand même garder le moral, hein. On peut faire des choses. Je ne suis pas en train de vous dire que t'il les cimetières des éléphants. La loi là-dessus nous oblige à faire ce qu'on appelle une analyse des consommations agricoles, naturelles et forestières depuis la dernière révision. Et vous le verrez avec nos cartes, on prend tout ce qui s'est urbanisé, on analyse tout ça et on regarde ce qui reste. En gros, moi je prends tout le temps cette image, j'achète une maison, la première chose que je fais un état des lieux. Puis je vais commencer à dire, tiens, la cuisine qui était là, c'est peut-être pas le top, je vais revoir comment c'est. Ben, un PLU, c'est la maison. Alors, c'est un peu plus grand, certes, mais c'est exactement la même logique. On fait un état des lieux, on détermine un enjeu, puis après, on voit où on veut aller. Et à travers ça, on a aussi un point qui est important, c'est réalisation des analyses des capacités de densité. C'est qu'à un moment donné, pendant des années, dans les documents d'urbanisme, on a eu le réflexe de dire, on est uniquement sur « on a grandi ». Avec la réforme qui s'est passée en août, le 21 août, on n'est plus dans cette logique-là. On va reconstruire de la ville sur la ville ou du village sur le village. Pourquoi ? Parce qu'on va être obligé, et on est obligé, de réduire très drastiquement l'ensemble de ces secteurs. Alors c'est bien ou c'est pas bien, je ne suis pas là pour vous dire si c'est bien ou pas, simplement on applique les textes que nos députés et sénateurs, au passage, ont voté. Et ça, c'est un fait qui est primordial. Et ça, c'est très important. Le troisième point, c'est réaliser l'état initial de l'environnement et le volet biodiversité. C'est toute la prise en compte de l'environnement. Il ne faut pas se leurrer. Dans les années 75 jusqu'à 95, objectivement, on a quand même fait de grosses, grosses bêtises en termes d'aménagement. Et on a été persuadé que l'homme pouvait être plus fort que le milieu. Donc on s'est dit, bah, tiens, on va urbaniser sur ces secteurs, même s'il y a de la flotte, ça ne pose pas de problème, etc. Sauf qu'il y a un vieil adage, c'est que la nature hors du vide et elle reprend tout le temps ses fonctions. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, elle s'étale un petit peu sur les côtés qu'elle ne revient pas. Moi, j'ai le cas de documents d'urbanisme où il y a des petits cours d'eau. C'est pas très loin, hein, c'est bon, Bugey. On est en train de faire le PLU, c'est pas énorme. Il y a beaucoup d'eau aussi. Ils ont un pépéri qui arrive, c'est 10 fois pire que vous. Hein. 90% de la commune, c'est tout en rouge. On n'y fait plus rien. Même pas un garage, même rien. On met des coquelicots, des moutons, et avec, on met des patous pour les garder. Et ça, ça va être une énorme problématique. Et là-dessus, l'homme a fait des bêtises. Donc on prend en retour, effectivement, le bâton. Et là, depuis 7-8 ans, le volet environnement met vraiment une marotte de l'État dans toute sa splendeur. C'est pas parce qu'il y a l'environnement qui contraint qu'on n'en tire pas un parti. Généralement, on peut avoir des grosses contraintes, ben finalement, ça donne la qualité. Et là-dessus, je pense que c'est un des points, puisqu'on a mené, en parallèle du PLU, on a mené une étude de cadrage sur votre commune. Une étude de cadrage, c'est pour savoir comment on va. On se pose toutes les questions et les évolutions. Vous avez encore beaucoup de vides au sein de la commune. Mais des vides qui ont de la qualité paysagère. Et à un moment donné, la loi, elle ne vous dit pas qu'il faut remplir toutes les bassines. Elle vous dit quel est l'objectif que vous fixez. Puis ce n'est pas désagréable d'avoir des poumons verts à l'intérieur de la commune. Pour dire qu'à un moment donné, on puisse aussi à la fois respirer. Et puis, est-ce le but vraiment de tous s'entasser? Alors, vous allez dire, mes questions sont banales, mais c'est une vraie question de fond. C'est est-ce qu'on garde des vides pour faire de la qualité, ou est-ce qu'on remplit la besace comme pas possible, avec des problèmes de circulation, et des problèmes qui vont être importants, c'est la sécurité des personnes. Parce que ça, dans les documents d'urbanisme, on dit assez peu. Sauf que quand vous avez des pomplards qui ont 35 bagnoles bloquées dans tous les sens et qui ne peuvent pas intervenir, et qu'au bout, il y a une maison qui crame, on n'est pas bien du tout. Et là, ben la responsabilité, il n'y a qu'une personne qui la prend, qui est à ma droite, c'est Madame le maire. Et ça, c'est vachement important. Et ça, dans les PLU, on ne le dit pas assez, parce que, honnêtement, nous, on a fait un autre PLU qui s'appelle Pérouge. C'est exactement pareil. En plus, la route n'est pas droite, et puis il y a des trucs qui se coulent, ça s'appelle des galets. Mais c'est une vraie problématique. Se dire à un moment donné comment on fait pour se développer, alors que demain, il y a un feu à l'intérieur de la cité, c'est un problème qui est imminemment très important. Donc on a réduit des points. Alors, bon, en plus, ils ont la BF, ou ce n'est pas le cas. Ils ont des contraintes qui sont encore plus compliquées. Mais il faut les avoir en tête. Et puis l'un des points qui est important, c'est réaliser un inventaire de capacité de stationnement. C'est ce que je vous évoquais. Maintenant, dans les PLU, nous avons l'obligation de dire, il y a 50 ou 80 ou 100 places tracées. Je dis bien tracées, c'est-à-dire celles qui sont repérées. On est capable de les compter. C'est pas celles simplement où on dit, bah, tiens, il y a une zone non stabilisée, vous pouvez vous mettre. C'est si elle compte pas. Il faut qu'elle soit tracée. Et là, on a les lois énergétiques et climat qui sont arrivées là-dessus. Vous aurez l'obligation, par tout module de 20, de mettre une borne de recharge. C'est une obligation, c'est la loi. Alors, est-ce que c'est une compétence de la commune ou est-ce qu'il y a une délégation à la Comcom? Après, ça, c'est des choix stratégiques. Ça, c'est autre chose. Mais il faut l'avoir en tête, parce qu'il y a des communes, dont une que je connais particulièrement bien, ça va être 95 bornes. Une borne, ça vaut 5 000, bien tiré en prix, si vous achetez un volume, sauf que ça coûte 4 000 par an pour les faire vérifier. Donc l'acheter, c'est rien du tout, c'est surtout les vérifier. Donc, vous faites le total de tout ça, vous mettez ça sur un budget communal, ça fait tousser. Donc à partir de ça, les textes qui sont donnés, on nous dit qu'il faut sortir des objectifs chiffrés modérés de la consommation de l'espace. Donc en gros, et lutter contre l'étalement urbain, et de le justifier. Et définir des orientations générales de continuité, c'est-à-dire on ne peut plus, et on ne va pas se raconter d'histoire, demain on imagine un hameau nouveau, développer un hameau, c'est impossible par rapport à la loi. On ne peut pas. Pour vous donner une image très simple, vous achetez demain dans le commerce une éponge, qu'est-ce qu'on ferait tous? On la met sous l'eau, elle gonfle. On s'en sert. Un PLU, c'est pareil. L'éponge, c'est le centre village, et à un moment donné, on met de l'eau, ben elle gonfle comme ça, donc l'urbanisation doit être en fait, entre guillemets, en spirale dans la continuité de ce point-là. Ou l'autre exemple qui marche bien, on prend un caillou, puis on voit l'onde d'un caillou dans l'eau. Ben, c'est ça l'urbanisme. C'est ça la loi SRU. Il faut partir du centre et puis on augmente comme ça. Donc tous les hameaux, il n'y en a plus. On ne va pas se raconter l'histoire. L'affaire est réglée. On peut bien s'inventer tout ce qu'on veut. Alors par contre, pour nous, c'est très simple à le dire parce qu'on n'habite pas là puis on n'a pas une maison dans un hameau. Mais quand vous avez eu pendant 30 ou 40 ans dans un hameau des terrains qui étaient classés et que du jour au lendemain, il y a un gentil monsieur qui s'appelle Deberge, on ramène, s'il y a la collectivité, c'est bien, on enlève ça. Ravi, c'est-à-dire on passe de à peu près, mais merde, vache, pas aménagé, à 45-50 francs, 50 euros, je veux dire en francs, et on amène ça au prix agricole 0,30, ben on tousse un peu. Je me mets à la place des propriétaires terriens, mais pleinement, mais c'est la réalité. On ne peut pas faire autrement. Et ce n'est pas la commune qui dit « Oh là là, on va embêter le père machin ». Non, non, c'est les textes. On ne peut pas faire autrement. Donc c'est quelquefois compliqué à dire par les élus. C'est nettement plus simple pour nous. On n'achète pas nos pains au snack. Donc c'est plus facile en la matière. Mais bon, c'est une vraie réalité. Et ça, les habitants n'arrivent pas à le comprendre. Et je les comprends, mais à 1000%, on ne peut plus toucher les mots. Alors vous, vous n'êtes pas trop impacté avec ça. Parce que naturellement, le milieu naturel étant là, le Rhône étant de l'autre côté, il a évacué naturellement ce point-là. C'est-à-dire, même si on voulait le faire, il y a des talvecs, il y a l'eau qui est dedans. Quand vous retrouvez une fois avec 1,50 m, deux fois avec 1,50 m, à un moment donné, on plie les gaules et puis on cherche autre chose. Et ça, c'est une vraie réalité du milieu. Parce que quand on fait de l'urbanisme, ce n'est pas simplement des plans comme ça. C'est qu'on se balade un peu, puis on va voir ce qui se passe, puis on dit, tiens, c'est bizarre, il y a de la topographie. Bah, nos anciens, c'est simple, hein. Le poste qui avait été fait, il n'y avait pas de carte à l'époque, il y avait un géomètre, je crois, à l'époque, dans le conseil, qui avait relevé tous ces points. Bah, quand on regarde le PPI, et puis où il a mis des traits, bah, on n'est pas loin de la vérité à 4 cm près. Mais c'est simplement de l'observation. Donc une fois qu'on s'est dit tout ça, on est soumis, votre commune est soumise à une évaluation environnementale dans sa globalité. Pourquoi ? Parce que on a une grande richesse environnementale sur la commune. Pourquoi ? Bah, c'est amené par l'eau, par le Rhône, dans toute la proximité, donc faune-flore, hein, des bébêtes qui sont là, et aussi bah, toute la qualité de la richesse des boisements et tous ces points. Et puis on a aussi des zones bah, qui sont humides sur votre commune. Alors on n'est pas trop impacté quand même. Et la loi du 22 août 21, elle dit tout simplement, le volet urbain, c'est la lutte contre l'artificialisation des sols et l'absence d'artificialisation à l'aube 2050. En 2050, ça paraît, on se dit, oh, alors, on a le temps, moi je serai à la retraite, je serai sûrement mort, mais parce que je suis 65, donc je sucrerai les fraises en la matière. Mais en tout cas, sur cette partie-là, ça veut dire très clairement quoi ? C'est la perte de fonction, c'est la petite def qu'il faut avoir. C'est le résumé de 1700 pages. La perte de fonction naturelle d'un sol à caractère agricole, naturel ou forestier. Ça veut dire que, un, s'il y a de la forêt, on ne peut pas aller dessus. Deux, s'il y a des classements en zone naturelle, N, on ne peut pas non plus. Et si c'est du monde agricole, ben on oublie aussi un petit peu. Alors, je n'aime pas me faire de copains s'il y a des gens qui sont du monde agricole autour de la table, mais vous avez vu, je suis très joueur. Donc, j'accepte de reprendre des bâches. Hein. Moi, je suis en 5 jours de rugby, donc... Au rugby, on en donne, mais si on en donne, on en prend plein la tronche. Donc, pendant 23 ans, j'ai adoré ce sport. Donc, le monde agricole sur cette partie-là, l'idée de la loi aussi, c'est de préserver la production. Pour faire très clair, on produit du blé, puis on le mange pour faire du pain. Il n'y a pas que ça, il y a de l'export, c'est plus compliqué que ça. Mais globalement, c'est ce principe-là. Mais ce sont les mêmes qui viennent me voir en disant « Il serait pas mal qu'on ait 2 hectares qui soient classés ». Oui, mais à un moment donné, on ne peut pas avoir été et être. La loi nous dit très clairement, on essaye de circonscrire tout ça. Donc il y aura des propositions, mais ce n'est pas ce soir, mais qui seront faites plus tard. C'est de dire à un moment donné, autour du village, nous ce qu'on propose, c'est de mettre sur une partie, parce que vous avez toute une partie qui est en zone rouge, rien ne pourra se faire, même pas une activité agricole, bâtiment. Mais on pourra cultiver et mettre des bêtes, ça n'empêche pas. Il n'y a pas besoin d'un PLU pour mettre des bêtes ou cultiver, hein. Par contre, pour construire des bâtiments, on propose, c'est ce qu'on fait à Néron, c'est ce qu'on fait sur d'autres communes, de mettre un périmètre, un petit bouclier d'Averne à la Obélix, en zone agricole stricte, pour dire, oui, on peut cultiver, mais attention, il n'y a pas de nouveaux bâtiments. Parce que si on approche de trop près les bâtiments agricoles, des zones urbaines, ben à un moment donné, tout le monde se met dessus. Parce que ben ça peut sentir s'il y a des bêtes, etc. Donc la Chambre d'agriculture demande qu'il y ait au moins 100 mètres minimum entre une première villa et un bâtiment d'exploitation agricole. Parce que ça serait le monde agricole s'ils payaient leurs investissements en 7 ans, ils seraient ravis, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc pour ne pas les bloquer, s'il y a une transmission, soit une vente, soit un enfant, bah dire bah, on vous a fabriqué un outil, on ne va pas vous demander de vous redéplacer parce que l'urbanisation avance. Donc tout ça, on fait attention sur cette partie-là. Et la loi nous dit quoi ? C'est que de maintenant à 2027, il faut tendre vers une réduction de 2027 à 2031, il faut réduire. C'est-à-dire tout ce que vous avez consommé de 2012 jusqu'à ce jour, en hectares, que ce soit pour une école, pour n'importe quoi, il faut tout y diviser par deux. C'est la loi. Et de 31 à 50, et ben c'est zéro. Je ne peux pas dire mieux. Hein. C'est pas un peu, c'est zéro. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tout ce qu'on a pu, dans mon discours au début, je vous disais, ce qui s'est fait en étalement, mais il n'y a pas de secret, si on veut continuer à se développer, parce qu'une commune doit aussi, enfin c'est notre adage, hein, doit aussi continuer à se développer, autrement on meurt. Pourquoi elle doit continuer à se développer un petit peu? C'est qu'à un moment donné, on achète, on a 35 ans, on construit une maison, puis le temps passe. Alors soit les enfants partent, et ça c'est ce qu'on appelle la décohabitation, c'est-à-dire je pars chez mes parents puis je vais habiter ailleurs, et dans votre commune, c'est un phénomène qui est énorme. Mais énorme, on va voir avec des chiffres, entre ce qui a été construit et le nombre d'habitants, on dit il y a un problème. Mais non, il n'y a pas un problème. C'est qu'en fait, bah, soit ils ne mangent pas assez bien chez leurs parents, puis ils veulent aller voir ailleurs, mais il y a quelque chose, ils partent très vite. Ça, c'est un phénomène qu'on observe beaucoup dans les périurbanités comme vous, moins dans la partie urbaine, enfin les métropoles plus. Pourquoi? Parce que c'est plus grand. Donc ils peuvent peut-être partir chez leurs parents, mais au lieu d'habiter dans le cinquième, ils vont peut-être habiter dans le huitième, mais ils sont tout le temps dans Lyon. Que dans-t-il? Bah, s'il n'y a plus de place, bah, les gars, ils partent de Thiel, il n'y a pas de secret. Donc à un moment donné, on se retrouve à l'intérieur des maisons, où on pouvait peut-être être 4 ou 5 à un moment donné, on se retrouve à 2. Et donc on a une production pour continuer toujours pareil, cette évolution progressive d'habitants, bah, on est obligé de construire vachement plus. C'est la course à l'échalote, dans votre cas, mais typique de votre commune. Je n'aurai pas le même discours sur d'autres communes. C'est le cas de Néron, de Némrose. On retrouve ces points-là. Et un exemple tout bête, c'est le cas de Montluel. On a fait le PLU. C'est exactement pareil. Et on a une sortie parce que, quand vous regardez Montluel, il n'y a pas beaucoup de terrain urbanisable possible. D'un côté, on a le coteau, c'est tout classé. De l'autre côté, on ne peut pas avec la Seine. Et à un moment donné, ils sont pris en limite sur les côtés. Donc, ce petit schéma paraît très béotien. Mais la loi climat, c'est ça. Vous avez le village qui est ici, donc nos petites flèches, et on se construit sur soi-même. On reconstruit, on redémolit, on construit. Ce qui a été en extension ici, ben, ça a été fait ces 30 dernières années, ben, c'est bien, mais c'est pareil en fait dessus. Là, c'est pareil. Et puis s'il y avait des poches qui étaient prévues de s'agrandir, ben, ici, c'est fait aux poches. Hein. On met les moutons et coquelicots. Et on n'agrandit plus. Donc ce petit schéma, il paraît peut-être béotien, mais je peux vous dire que enfin, c'est un petit schéma de l'ADEME. Nous, on l'aime bien parce que je trouve qu'il est très naïf, mais il résume beaucoup de choses. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, le conseil municipal donc, a lancé le 21 octobre 21 l'étude complète du PLU par délibération. On a fait une étude de cadrage et aujourd'hui, on regarde les orientations du PRDD. Donc, le plan d'aménagement de développement durable, c'est pas ce soir si on va dire que le terrain du Père Dupont il est constructif ou pas, et si il y a du zonage ou des règlements. Pas du tout.
Vous me l'a demandé tout à l'heure.
Ouais. C'est légitime. Ouais, c'est normal. Et en fait, là, on est pour donner les grandes tendances. Et après, donc on aura une réunion le 13 octobre qui est programmée à sa défaite pour expliquer tout ça, tout ce que je vous ai expliqué là, on va redire ces choses-là, qu'on va présenter à la population. Et après, une fois que le PADD est validé, on va rentrer là dans le zonage détaillé, on va rentrer dans le règlement et on va rentrer dans ce qu'on appelle les orientations d'aménagement programmatif, ce nom barbare d'OAP. Et on va définir, bien évidemment avec le groupe de travail des élus, ces points-là. Et quand on sera arrivé à maturité, ça permettra d'avancer. Le point majeur du débat de ce soir, parce que ce n'est pas une délibération que vous prenez, c'est un débat. On débat. S'il n'y a rien à dire, bah, on rentre chez nous et on va avoir un match au rugby. Et s'il y a des choses, bah, les choses sont notées. Et c'est un débat et on amende ces points-là. Et là, ça vous permettra juridiquement, ça c'est très important, de mettre ce qu'on appelle un sursis à statuer. C'est-à-dire tout projet qui va arriver, qui n'est pas dans la philosophie de ce qu'on va expliquer, c'est ni oui ni non. C'est-à-dire on ne donne pas le permis. Vous revenez nous voir dans 2 ans. Quand je dis nous, c'est la collectivité. Mais ça permet aux élus et aux groupes de travail et aux conseils de pouvoir travailler entre guillemets sereinement sans avoir la pression foncière. Parce que c'est compliqué autrement. Si on élabore quelque chose, puis qu'il y a 50 CU qui arrivent, puis qu'on remplit la bassine en permanence, bon, au bout du compte, quand on aura fini le PLU, on va dire attendez, oui, ça c'est un peu pur, mais on n'a pas plus. Donc là, ce soir, une fois que vous avez débattu, il y a un sursis à statuer de 2 ans qui tombe. Ça ne veut pas dire que les choses sont bloquées. S'il y a un projet qui colle à la philosophie, ben il est donné. Par contre, s'il ne colle pas, ben on est normand. C'est peut-être bien quick, peut-être bien que non. En tout cas, c'est revenu dans 2 ans sur cette partie. Donc ça, c'est primordial à avoir en tête. Hein. C'est pas anodin sur cette partie. Alors le PRDD, qu'est-ce qu'il dit? Il va fixer une politique générale environ sur une douzaine d'années sur cette partie-là. Il va fixer des objectifs chiffrés. Il va aborder l'ensemble des thématiques de la politique urbaine, que ce soit le règlement, les hauteurs, les constructions, l'habitat, etc. Il ne peut pas prévoir l'ouverture d'urbanisation d'espaces naturels, c'est ce qu'on disait agricole, au moyen d'une étude de densification, ça c'est un point qui est important, et il a une portée juridique, c'est celle que je viens de vous dire, pour le PLU qui va arriver plus tard, parce que ce PRDD, si on écrit un zonage et qu'on dit un endroit, ben voilà, et on va arriver à des chiffres, on a une prospective plutôt de temps de logement. On va définir dans le PRDD le nombre d'habitants. À un moment donné, il faut se parler vrai, c'est quoi-t-il dans 12 ans? Est-ce que c'est 2000 habitants, c'est 5000 ou c'est 1500? Donc à un moment donné, je vous rassure tout de suite, on est plutôt sur 1500, le dernier point que j'ai donné, sur cette partie-là. Et ça, on fixe les objectifs. Il faut, si on annonce dans le PLU, le PRDD, 1500, et que le zonage permet d'en faire 2000, ben, les 27 services qui vont analyser, parce qu'on n'est pas tout seul, hein, après on envoie le dossier à 27 services, hein, dont le préfet, l'ADREAL et le SCOT, qui sont les éléments majeurs, mais le préfet, il a un nombre de services derrière. Si derrière, ils nous disent, attendez, votre calibrage, c'est bien gentil, mais vous dites 1500, on peut faire 2000. Ben, avis défavorable, vous prenez votre copie et vous dessinez un zonage à un règlement qui est conforme à l'objectif qui est fixé. C'est à peu près normal. Si demain, je dis, je vais fabriquer une bagnole, puis je vais y mettre 5 roues, puis on en trouve 7, il y a quand même un problème. Les anciens, à le contexte, vous aviez un PRDD. Ça, c'est un PRDD type avec des axes. Mais on va y revenir. De toute façon, tout ce qu'on vous raconte là, vous aurez un document support, tout le monde pourra regarder en détail ces points. Puis on développe des axes, et on va y venir sur la commune. Ça, c'est un exemple d'un PRDD, une cartographie. Là, je ne suis pas capable de dire, c'est Césaria, hein, à côté de Bourg. Là, je suis incapable de dire si le père Dédé ou le père Polo, vous m'en excuserez s'il y a Dédé ou Polo dans l'Assemblée, mais si c'est constructible ou pas, on donne les grands principes. C'est uniquement ces parties-là où on dit, ben, y a des secteurs urbanisés. Ici, oui, c'est en clair, mais on ne sait pas si ça va être aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc simplement, c'est cette amorce qui est ici. Et avec les élus, on a discuté de ces points sur cette partie-là. Alors, le PRDD, point qui est important, on a fixé une orientation qui est de 2023 à 2035. Pourquoi? Parce qu'on s'est calé, bien évidemment, sur le SCOT. Le schéma de cohérence territoriale. Alors, c'est quoi cette bête? Moi, j'ai souvent dans la population des gens qui me disent « Oh là là, je suis allé voir la loi Scott, ça n'existe pas, qu'est-ce que vous m'avez compris ?» C'est pas ça. Il y a la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain de 2000, la loi Jospin, et qui a décliné à l'intérieur de ça, l'article 55, les Scott, et qui a dit à un moment donné, voilà, tous les élus réunis de toutes les communes dont dépend le Scott, et là, on est sur le Scott Bucopa, croyez-moi qu'il est... Vous êtes le dernier ici, on monte à Tramois et on va au-dessus de Saint-Sorin-en-Bugey et on va jusqu'à Brieuc, limite. Donc on a une tartine, c'est pas mince, c'est un très gros SCOT. Définit des orientations et des principes, derrière les grands axes sur ces parties. Ça serait vachement simple, c'est qu'on a encore une couche qui est au-dessus, ça s'appelle la DTA, la directrice territoriale de l'État. Et vous, vous êtes impacté parce que vous avez un aéroport. Donc à un moment donné, on a un juge de paix qui s'appelle le préfet de région qui va regarder aussi le document. Vous n'êtes pas pauvre, vous en avez un de plus. Hein. Il est de taille. Hein. On a Paris à Niébrose. Hein. Donc on l'a rencontré il y a quelques temps déjà. Parce que vous êtes touché par 16 communes. Et sur ces 15 communes, il y a un droit de tirage de nombre d'habitants. Pourquoi? Parce que l'aéroport étant là, imaginons malheureusement qu'il y a un gros crack de l'aéroport, c'est-à-dire 2-3 avions qui se cassent la gueule. Ça va faire mal. Donc, ils ont calibré le nombre de populations maximum de ces communes. Mais à l'intérieur, quelque chose de très pervers, c'est que, hypothèse, n'importe quoi, c'est calibré à 50 000 habitants, vous êtes la 8e commune qui fait, et puis tous les petits copains avant, les 7 qui sont passés avant, ont mangé les 50 000. Eh bien, le préfet de région vous dit, je suis ravi, mais il fallait vous réveiller avant, parce que vous êtes passé à côté de la glace, il n'y a plus rien dans la gamelle. Donc là, ce n'est pas tout à fait le cas, mais il faut quand même faire attention, parce qu'il y a des calibrages qui ont été donnés. Alors, on s'est assuré que le calibrage, et vous l'avez entendu, à 1500 habitants à peu près, est en adéquation avec la volonté des autres PLU. Parce que nous, on a fait tous les autres, puis on est en train de finir d'autres. Quand on regarde à peu près, on est bon dans le calibrage, à epsilon près. Toujours pareil, s'il a annoncé 50 000, c'est pour 50 001 où il dit stop, je n'ai pas le permis. Non, c'est de la compatibilité, c'est pas de la conformité. Et le SCOT, c'est pareil. Si le SCOT nous donne des droits de tirage d'évolution de population, c'est que si on attend, il ne s'arrête pas au premier qui dépasse en disant stop, on arrête tout ou on l'abat. Non, c'est pas ça. C'est de la compatibilité. Nous, les urbanistes, on est très forts de ce côté-là. 2 plus 2 chez un comptable, ça fait 4. Chez nous, 2 plus 2, ça peut faire 3,7 ou 4,3. Je le dis volontairement parce que ça, c'est une notion de compatibilité. Au-delà, on nous dira, je regrette, et le préfet nous dira que c'est service de l'État et le SCOT, vous n'êtes pas dans la compatibilité. Donc, vous reprenez votre copie. Ils nous diront pourquoi là-dessus. Donc, voilà. Donc, c'est la petite histoire, mais c'est important de l'avoir en tête parce que le PLU doit passer aux strates du SCOT, de tous les services du préfet. Vous n'avez pas de peau du préfet de région en plus, parce que vous êtes à côté d'un aéroport. Et en plus, un organisme très important, et ça c'est un du préfet, c'est la DREAL. La DREAL, c'est la police de l'environnement. Et la police de l'environnement va émettre un avis au vu de l'inondabilité très particulière que vous avez et des risques majeurs que vous avez avec le PPRI que vous avez sur votre commune. Donc tout ça sera mouliné par ces services. Je vous espérais que nous obtiendrons un avis favorable, et on est là pour ça, mais il ne faut pas se leurrer, ça sera avis favorable sous réserve 2, puis on aura 80 pages de tartine à côté de tous les services. Et on analysera ces points. Et ça, c'est important, ce n'est pas parce que les élus disent nous, on souhaite que cette zone soit constructible, que c'est argent comptant. Ce n'est pas parce que le commissaire enquêteur, ça passe. Il y a un moment donné, l'avis de tous les services. Et ce n'est pas parce qu'un commissaire enquêteur dit « Ah non, non, moi je suis d'accord, si le préfet de région dit « en question, cette zone, vous l'enlevez », je peux vous dire que c'est tout ce doigt sur le pantalon et on avance droit dans les bottes là-dessus. Donc ça, c'est important à avoir en tête pour bien comprendre le pourquoi du comment. Donc le PRDD, comme il l'a dit, sera débattu ce soir. On aura donc un sursis à statuer, pendant 2 années. Alors, la conclusion de l'étude de cadrage qu'on a fait. Alors, je ne vais pas vous la présenter ce soir, je pense qu'elle a été mise sur le site. Mais en tout cas, il y a tout un ensemble. Il y a 4 points forts qui ont été donnés. C'est exclure tout développement urbain en extension urbaine. C'est-à-dire, pour faire très clair, vous prenez le contour des constructions qui ont été faites en dehors de toutes les limites. On va voir un plan tout à l'heure. Tout ce qui est dedans, c'est l'enveloppe urbaine. Tout ce qui est en dehors, c'est l'extension urbaine. C'est maîtriser la croissance et en plus, comme je l'évoquais à l'instant, avec le PPRI que vous avez, quand vous regardez à l'ouest, il y a une zone rouge, quand vous regardez au nord, il y a une zone rouge, quand vous êtes de l'autre côté, enfin, vous bordez les berges, ben, malheureusement, vous êtes dans l'eau, on ne va pas faire une cité lacustre, et quand vous êtes à l'est, ben, il y a quand même pas mal de choses qui bloquent. Donc, conclusion, vous êtes enfermé, je le disais une fois en rigolant, la forme de la commune de Tille, c'est une casserole. C'est un manche et un élément qui est là, sur cette partie-là. Bon, alors il paraît que c'est genre, et c'est genre de propos, ça déconnecte. Mais c'est en tout cas la forme qu'on peut donner. On va dire raquette de ping-pong, comme ça on est un peu plus tranquille. Donc sur ce point, c'est très important de l'avoir en tête. 2, c'est maîtriser la croissance démographique par l'identification du foncier stratégique pour la production du logement neuf et la réalisation d'équipements publics. On ne va pas se leurrer dans la commune si demain, tous les vides qui sont dans cette fameuse enveloppe urbaine, vous vous mettiez à les remplir. C'est à peu près 1800 habitants. C'est pas la feuille de route sur laquelle la ville a travaillé. C'est 1500. Alors pareil, c'est à la marge. Ça peut être 50 de plus, ça peut être 50 de moins. Moi, je suis pas Merlin Enchanteur, ni Bruce Tout-Puissant, en tout cas, je serai pas là. En la matière, on peut pas dire ce qui va se passer demain, mais globalement, on a quand même des tendances qui donnent l'ordre d'idée. On sait qu'à ce jour, il y a un phénomène très important, c'est que les jeunes ou les moins jeunes quittent les espaces urbains et viennent en périurbanité. Alors, c'est accompagné par quoi aussi ? C'est que vous êtes tellement proche de Lyon, vous avez une sortie d'autoroute qui n'est pas loin. Oui, vous avez raison de me soulever. Ça aide beaucoup. Parce que les gens se disent, attendez, acheter un appart, après Covid, ce qui valait 500 000 balles, ça vaut 1 million d'euros. Bon, vous verrez, ici, c'est pareil. Hein. Après Covid, ce qui valait 300 000 euros, ça vaut 500 000 balles. 500 000. Mais à un moment donné, il y a des gens qui aspirent à une qualité de vie sur la qualité des lieux et aussi sur le fait de pouvoir avoir de l'habitat individuel. Alors c'est là que le bas blesse un petit peu. Parce que dans un pays élu, l'État nous dit vous n'allez pas me tartiner des kilomètres de points. Je veux, et quand je dis je veux, c'est État, bien monsieur le préfet et préfet de région, nous voulons de l'habitat individuel, de l'habitat groupé et de l'habitat collectif. Et c'est une obligation. Si demain on fournit un document d'urbanisme qui est que du pavillonnaire, nous prenons un coup de fusil. c'est-à-dire avec un avis défavorable. Donc, l'habitat individuel, on sait tout ce que c'est. L'habitat groupé, c'est pas très compliqué. Il suffit que vous ayez deux maisons qui se touchent de 50 cm, c'est du groupé. Le tout, c'est de pas avoir un vide entre les deux. Donc, l'État considère que c'est du groupé. Puis, le collectif, bah, c'est du R plus 1 ou R plus 2. Ça peut faire peur dans la forme urbaine. Mais étant donné que cette loi qui est arrivée en août 21 nous dit il n'y a plus, puis qui continue à nous dire mais il faut quand même vous développer, il n'y a pas de secret, ce qu'on ne faisait pas copier, moi je vais leur faire ça. Hein. Qu'on le veuille pas. Donc c'est compliqué dans la conscience de tout le monde, surtout quand vous êtes à côté d'un terrain, vous étiez en pavillonnaire, puis d'un seul coup, il y a un R plus de poussée. C'est un peu compliqué. Les Allemands, il n'y a même plus les droits de vue qui sont là. Chez les Allemands, vous pouvez construire, il y a des vues de tous les côtés. En France, on a encore les droits de vue dans le code civil. Je ne sais pas pour combien de temps, mais on les a encore. C'est important. Et l'exemple, si un jour vous avez envie de vous balader, alors c'est plus grand, mais vous allez à Toronto. Et vous allez dans les périphéries de Toronto. Il y a des lotissements, comme on a à Tille, et d'un seul coup, il y a plus 80. Plus 80 niveaux de logement. Ah ben, ils ont réduit, hein. Je peux vous dire que où ils avaient 100 hectares, avec 10, ça suffit amplement. Et en plus, eux, ils ont 360 fois plus de place que nous. Bon, c'est une petite aparté. Mais il faut savoir qu'actuellement, la réflexion qui a été posée avec cette loi ZAN, c'est vraiment ce point-là. Et qu'une collectivité, même si elle veut se battre la compte, ne pourra à ce jour pas se battre la compte. Depuis 2000, toutes les lois sur l'urbanisme, et Dieu sait, on a eu des gouvernements, on a eu des tendances politiques différentes, ont toutes voté à l'unanimité cette loi. C'est la loi Borloo, et tous les points. Il n'y a que la dernière, alors la dernière, la loi ZAN, elle est magnifique, parce que le Parlement n'avait pas encore ouvert, c'était les séances premières, il n'y avait que 77 parlementaires sur 577. La loi est passée. Bref, c'est les prêts. Je ferme la parenthèse. C'est un symbole de démocratie, vous avez dit. Mais ça, ce propos n'est que Jean-Luc Ramel, de BR. Deux, c'est endiguer la densification pavillonnaire peu qualitative sur le foncier résiduel de l'enveloppe urbaine. Ça, je crois que c'est un point qui est important, parce que si on ne dit pas dans l'étude de Camarage, on se fera récupérer par la patrouille et l'État nous dira non, non, arrêtez votre tartinage de biscotte sur cette partie-là. Je donne souvent cet exemple, vous prenez le TGV, vous montez à Paris, et une heure avant Paris, vous vous réveillez et vous regardez. Il n'y a pas besoin de faire de grandes études. Hein. Vous ne faites que regarder. Il y a des kilomètres de lotissements qui sont faits. Vous avez plus de temps entre le centre-village pour aller au bout du dernier lotissement que faire dans le TGV pour arriver à Gare de Lyon. C'est terrible, mais c'est une réalité. Et puis après, c'est réserver les poches de respiration et de tramverne dans le tissu urbain. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Moi, je suis convaincu, et notre étude l'a fait avec nos paysagistes au sein de l'agence, on a une super qualité au fond de Tille. À la fois, toute une balade magnifique qui est le long du Rhône, qui peut atterrir sur la partie où vous allez avoir des aménagements, et on reviendra dessus aussi sur l'énergie. Il faut que vous définissiez des enveloppes sur la partie panneau solaire, c'est une obligation, on y reviendra après. Et là, dans le centre, on a en plus des sujets, des arbres qui sont magnifiques, et moi je prends tout le temps l'exemple. Vous êtes dans le désert, vous prenez un bâton, au milieu du désert, vous le regardez, vous plantez un bâton. Que ce soit un bâton dégueulasse ou pas, il prend une dimension énorme. D'un seul coup, ça devient un objet. Ben chez nous, c'est pareil. Vous prenez des arbres et vous en avez certains qui sont de qualité. Alors, je ne parle pas du sapin de Noël qui a poussé 40 ans, puis jaune dans le vent, il va tomber. Je parle de certains arbres. Vous avez des cyprès du Liban, vous avez des aimants. C'est magnifiant, c'est des bêtes. Demain, on imagine que tout ça soit coupé. Vous allez vous retrouver à ce qu'on appelle un étalonnage, c'est-à-dire des vues de toit. Tu vas dire, oh, mais c'est passé où, merde. Et avec ce qu'on vient de vivre encore cet été, un peu d'ombre, ça fait quand même vachement du bien. C'est bête, mais ça paraît agréable. Donc l'idée, c'est de se dire, il ne faut pas être l'Al-Qaïda de l'espace vert, en disant, oulala, ça n'en touche pas. Non, il faut se dire à un moment donné, il y a certaines essences qui vivent et qui meurent, c'est beau, comme nous, on en fait partie. Et puis il y a certaines essences qui, elles, sont magnifiantes. Donc essayons de tirer parti de ça pour donner une qualité, c'est l'objectif 4 qu'on a fait. Alors là, nous, on est très joueurs. C'était le avant, c'est comme la solution pour les cheveux, puis c'est le après ici. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut simplement dire que là, on avait des haies qui étaient intéressants. Là, on vivait, alors si les personnes sont dans la séance, je m'en excuse, mais on avait une qualité qui était intéressante. Je parle de perception, hein. Après, je ne parle pas de la vie, je parle de perception. Puis là, d'un seul coup, on s'est dit, tiens, il y a un bout de mur, il y a un point. On est passé de quelque chose de périurbain, avec une qualité paysagère, je trouve assez intéressante, à quelque chose de très dense. Là, il ne faut pas en vouloir aux gens qui sont là. À un moment donné, le propriétaire, il a été mobilisé, il a vendu l'eau, il achète son eau, il fait sa maison. On ne peut pas l'en vouloir. Mais d'un côté, on se dit, tiens, c'est ballot, parce que si ça avait été réfléchi dans le PLU, on aurait pu trouver des solutions pour construire quelques maisons, mais peut-être pas autant. Et on aurait créé une vraie richesse tout de suite, au lieu de se dire, bah, tiens, je fais une plateforme en tout venant qui est propre, je mets une maison dessus, puis après, ah, bah, j'ai coupé les arbres, c'est pas grave, on va en planter 2-3, il faut attendre 25 ans pour que ça revienne. On aurait dit, il y en a 2-3 qui sont intéressants, je reprends mon histoire, mon sapin Noël, lui, c'est pas la peine, c'est un résineux, on sait que ça vit sa mort, il faut couper, mais s'il y a 2-3 essences intéressantes, ça vaut le coup de les prendre en compte. Et quand on voit l'image qui est là, bah, au fond de moi, elle est toujours pareille, c'est pour moi dans le village que j'en ai cramé, je trouve que c'est un peu dommage. Parce qu'il y avait des vides dedans qui étaient intéressants. Puis après, on a pris dans l'autre sens. On est très joueurs, voilà ce que ça donne. Mais c'est légitime, les terrains étant de plus en plus petits, les gens ont envie de protéger son intimité. On ne peut pas en vouloir à la personne qui est ici ou là d'avoir construit un mur là. C'est légitime. Enfin, ce n'est pas une critique, c'est un constat simplement. Mais de ce constat-là, maintenant, je vous mets mon billet, si lui qui est là et lui qui est là fait une piscine, et qu'il y a 3 gamins qui font la bombe dans la piscine, sur le plan acoustique, on va se marier 2 secondes. Hein. Et là, ça se retrouve tout dans les rues. Allié, ah ben je veux pas. Et on va se marier 2 secondes, et derrière, il y a un des voisins qui va venir voir Madame le maire en disant, il faut arrêter, il faut un de ces bruits. Ben oui, mais l'acoustique, hein, vous faites des murs plus une construction, c'est comme un billard. Hein. Si c'est parallèle, ça fait ça, et ça monte et ça rejaillit. Donc tout ça, vous mettez du verre, ça a le côté aussi pas inintéressant, ça coupe les CO2, puis à un moment donné, les effets acoustiques sont pas les mêmes. Nous, actuellement, on mène des études urbaines sur des points très spécifiques de densification à mort, où il y a un niveau sonore acoustique qui est monté de 4 dB. Pour ceux qui ont fait un peu de maths, c'est un log. Et bien, un log, 4 dB le baissé de 3 points, c'est colossal. Hein. Donc, on peut mettre des boîtes 2, on peut acheter toutes les boîtes 2 des fabricants, puis les coller contre les murs. Hein. Mais avant qu'on ait un affaiblissement, on ne va pas y arriver. Donc ça, c'est à prendre en compte. Simplement, c'est d'imaginer un petit peu, et en disant, oui, moi je serai le premier peut-être à le faire en disant j'ai un terrain qui est un peu grand, je veux faire 2-3 sous, je fais 5 lots, au prix où c'est actuellement, ça vaut le coup. Mais quand vous regardez l'étroitesse de la voie qui est ici, il ne faut pas qu'il y ait une bagnole, même que le gars il se pose 2 secondes et il a la flemme de rentrer, il dit tiens je vais vite chez moi, je vais chercher un point, puis une baraque qui crame, un camion pompier qui arrive ici, et ben, je peux vous dire que le voisin du fond ou la baraque qui crame va adorer son voisin qui est ici. Hein. Mais vraiment. Et ça, c'est une vraie réalité. Ce n'est pas du pipeau, il n'y a pas besoin de faire de grandes études. C'est du pragmatisme pur et dur. Et ça, c'est compliqué dans votre structure. Et puis, on a l'autre point aussi. Ça, c'est la route de Thiel, sur cette partie-là, où on a eu, là, on avait une structure paysagère qui était là. Puis, on commence à voir quelques maisons qui se structurent ici. Alors là, c'est moins prenant. Mais c'est ce qu'on appelle, nous, les silhouettes. La skyline d'une commune ou d'une ville. À un moment donné, les silhouettes se modifient. Alors nous, on est architectes, on est urbanistes, on est paysagistes, puis on est chiant. Donc, à un moment donné, on dessine ces ponts, on dit c'est quand même un peu ballot. Parce que derrière, c'est un patrimoine qu'on fabrique pour les futures générations qui vont peut-être se dire, nos anciens, ils étaient gentils, mais ils ne sont quand même pas trop posés de questions. Puis après, on est rentré dans le détail de tout ça. Donc ça, c'est une synthèse. C'est des heures et des heures passées sur le site. Alors, Marvin, plus la paysagiste, il n'y a pas pris de coutume ici, ça a été agréable. Je rigole parce qu'on a fait ça à Lens, et notre paysagiste s'est fait bouffer tous ses pneus par un gars, un chasseur, il a lâché tous ses fox, ils ont ravagé les pneus. Il m'appelle, il dit, je fais quoi? Je dis, tu recules, parce que s'il y en a 100, je vais te faire bouffer. Donc, et puis tu dis, au revoir monsieur, puis terminé. Donc là, quand vous regarderez le plan, il y a 3 grandes tâches importantes. Tout ce qui est en gris, c'est tout ce qui a été urbanisé, qui a été rempli. C'est beaucoup, il ne faut pas se leurrer. Et on a en orange ce qui est mobilisable et ce qui est en violet, qu'on retrouve ici, alors il n'apparaît pas beaucoup, enfin on voit mieux, j'ai des exemples ici, là. On a globalement 4,6 hectares qui restent encore en banque creuse et on a 3,1 hectares qui restent en division. Division, c'est j'ai ma villa, puis il reste un bout de terrain derrière, peut-être 500 ou 600 ou 400 mètres carrés, je fais un chemin et je revends et je peux avoir un voisin à côté. Tout ça, ça représente 7,7 hectares. C'est énorme, l'échelle de la commune. Mais énorme. Imaginez qu'on laisse ces 7 hectares qui sont là. bah, mon 1800-1900, j'y arrive sans trop de problème. Et là, c'est invivable à l'intérieur du tissu de la commune. Alors, c'est dur à entendre, surtout c'est très dur pour le propriétaire qui dit, bah tiens, j'aurais été peiné, divisé, etc. Mais ça va être très compliqué. C'est un vrai choix, hein. C'est un choix qui n'est pas simple, hein. C'est un choix qui est puissant du conseil, mais je crois qu'il se porte sur un élément. Est-ce qu'on veut faire de la qualité dentile ou est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore et c'est le showroom des aménageurs sur cette partie-là. Donc on a 7-7 en tête. Donc on a pris des orientations sur cette partie et on a fixé 4 orientations. La première, c'est tirer parti de l'attractivité résidentielle par un développement urbain soutenable et respectueux de la qualité d'habiter à Tille. Alors c'est peut-être des mots, mais les mots ils sont très simples, c'est ce que j'ai dit juste avant. C'est est-ce qu'on veut de la qualité ou on n'en veut pas ? On peut avoir un conseil qui dit non, ça on s'en moque complètement. Nous, ce qu'on veut, c'est du chiffre. On veut monter et monter. Moi, j'ai des communes qui me répondent ça. Hein. Moi, j'ai aucune difficulté avec ça en la matière. Moi, j'applique ce que les élus souhaitent faire. En deux, c'est améliorer le fonctionnement urbain communal et offrir une réponse durable aux besoins des habitants et aux usages du territoire. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le ton de la plaisanterie. C'est qu'à un moment donné, ça serait bien que dans les rues, on puisse y marcher tranquillou. Quand on revient de l'école, ou quand on va ou à la petite supérette que vous avez, ou qu'on se balade tout simplement. Si c'est une hantise avec ses gamins de se balader, la poussette se dirait, est-ce que je vais me faire cartonner par une bagnole ? Moi, pour moi, c'est pas agréable. Mais ce propos n'engage que nous. Et à côté, est-ce qu'on peut pas avoir des points qui soient en mixité, avoir de la circulation en plus, une zone, mais qui est matérialisée au sol, ou ce qu'on appelle des voies partagées, c'est aussi bien les voitures, et aussi bien le vélo piéton. Parce que quand vous avez une voie de 3,5 de large, il n'y a pas de solution, on ne peut pas tout mettre. Parce qu'il faudrait 5,50 pour les voies pour circuler à double sens, il faudrait 2 mètres d'un côté et 1,40 de l'autre. Je vais faire le calcul, parce que ça fait 8,40 sur cette partie-là. Ben, quand vous avez que 3,50, je n'ai pas 8,40. Hein. Donc il y a un choix. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas, qu'on n'a pas des aménagements possibles par des tracés au sol. Vous en avez fait déjà des points de ce type-là qui dit simplement à la voiture, calmons-nous. On n'est pas tout seul, on n'est pas sur la piste du Castelet, et on va y aller tranquillou. Et on peut bien partager, parce que quelquefois, c'est les mêmes... On vient de finir une étude urbaine avec un bureau d'études spécialisé en la matière. Non, c'est marré. 45 personnes qui ont fait une pétition. Ah oui. On a flashé les plaques. Il y en a 39, c'est eux. C'est les mêmes qui disaient ça roule trop vite, qu'on a gaulé à 92,5 ans. Donc on a commencé en réunion publique. Et au bout de 15, il y a un monsieur qui m'a dit, on va arrêter là. Finalement, on ne va pas arrêter parce que j'ai appairé votre bagnole. Vous êtes le 27e. On a continué. Donc après, il y a un problème. Il n'y en avait plus. Donc. Je ferme la parenthèse. On est tous pareils quand on est au volant. On a l'impression que 30, on se traîne, puis que ça va bien aller. Sauf que quand vous mettez sur le capot un vélo à 30, eh ben, ça fait mal. Donc l'idée, c'est de se dire, c'est dans cette notion de réponse durable aux besoins des habitants, quelle qualité on peut donner. Le 3, c'est composer avec le risque naturel et réduire la vulnérabilité du village au changement climatique. Ça, on l'a vu sur beaucoup de points. Malheureusement, on se prend en 2 mois, quelquefois en 2 heures, les 2 mois d'eau. Et notre terre, il n'y a pas tant de solutions, c'est une éponge. Mais quand elle est sèche, elle ne peut pas tout absorber. Et on se retrouve avec des catastrophes qui sont dures à vivre. Mais ça peut être des vies brisées où le gars et son couple ont essayé avec les gamins de construire une maison. Et en 10 minutes... on peut se faire ravager un bien. Et là, l'idée, c'est de composer. Donc, vous avez un PPRI, donc, que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, il s'applique. Mais il n'y a pas que ça. C'est de se dire, par rapport au changement climatique, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir aussi sur la production solaire, sur les toits ? On va en parler tout à l'heure sur des localisations, parce que la loi aussi, mais je l'expliquerai tout à l'heure, oblige des choses. C'est marrant, hein, le 1er juillet, il faut répondre avant le 1er décembre. Tout va bien. Ça fait 4 ans qu'il se cogite l'esprit. J'allais dire un autre mot. À un moment donné, stop, arrêtez, vous êtes gentil, et si c'est pas fait, il le faut. Pour la petite histoire, mais je suis très joueur, un sous-préfet ou un préfet, s'il arrive à le faire, ça lui fait des points pour sa carrière. Et donc, il chope plus de points qu'à son boss au ministère. J'ai réussi, et il prend le poste qu'il veut. Je referme la parenthèse, parce que c'est la vérité. Et il n'y en a pas un qui m'a démenti jusqu'à présent, je l'ai dit il n'y a pas longtemps à la préfète de l'Ain. Et en 4, préserver la qualité environnementale des territoires. Dans la qualité environnementale, il y a l'agriculture aussi. Si à un moment donné, on ne préserve pas notre agriculture. Et vous, vous êtes très impacté, mais au sens positif, hein, mais avec fraises au champ, les pauvres, ils ont eu quelques soucis avec du vent en matière, mais une vraie qualité sur ce point-là. Ça permet d'aller se balader tranquillement là-bas, d'aller prendre ses fruits et légumes, de revenir, puis il n'y en a pas d'autres, hein. Moi, le premier habitant du Simieux, j'y viens. Donc, à un moment donné, il y a une vraie qualité. C'est quelque chose d'intéressant. Donc, on a divisé en quatre parties ces grands thèmes. Et si on détaille un petit peu, le premier point, donc compenser la pression urbaine de la métropole de Lyon, mais ça, c'est limite. Donc, c'est fixer la modalité d'accueil des nouvelles constructions résidentielles non tissu existant. C'est identifier des secteurs urbains propices à une bonne intégration urbaine, architecturale et paysagère des nouvelles constructions. Parce que ce n'est pas le tout de construire aussi n'importe comment. C'est qu'à un moment donné, dans le règlement, on va dire, et ça, tous les maires y sont confrontés, on a des mouvements de population importants. Ben, c'est le boulot. Hein. C'est qu'à un moment donné, vous pouvez être 5 ans là, puis vous avez un autre job 10 ans ici, etc. Quelquefois, ça ne fait pas plaisir aux gars. Les personnes aimeraient mieux tranquillement pouvoir s'ancrer les racines à un endroit, mais le boulot est ainsi. Et on a des telles mutations actuellement qu'on a quelquefois des gens qui habitent en Provence, qui arrivent ici, qui vous disent « Ah oui, mais moi j'adore les toits provençaux. » Ben oui, mais les tuiles, elles ne sont pas couleur Provence ici. Puis les toits, ce n'est pas 27%. Nous, c'est plutôt rouge et rouge foncé, puis c'est plutôt 35 à 40, parce que quand on a de la flotte qui tombe plein vue, à un moment donné, si c'est trop bas, ça va rentrer par les tuiles. Donc, enfin bref, c'est tous des systèmes de ce type-là, et puis tout le système d'encorbellement qu'on peut avoir sur des balcons ou autres, ben non, c'est pas le style provençal. Donc vous allez dire, ça y est, il fait le Corse, il défend ses points. Non, c'est simplement se dire, il y a des lieux et il y a des qualités architecturales qu'on reconnaît. Quand on part tous en vacances, on est capable de dire « Ah bah tiens, j'arrive dans la Drôme, là », ou etc. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'architecture. C'est simplement le fait de connaître, et on reconnaît à partir de ça, les sites où on est. Et l'idée, bah, à travers le règlement, et avec tout ce que vous avez vécu dans les instructions de permis, il faut une instruction qui n'est pas loin, qui est ici, je pense qu'il y a des listes qui seront là. On vous dit « Attendez, là on est très embêté avec ça ». Pourquoi ? Parce qu'on a un autre phénomène, c'est que les toitures terrasses, on ne peut plus les interdire. C'est la loi climat. Donc si c'est végétalisé, c'est-à-dire qu'il y a au moins 90% en herbe, on peut. Parce qu'il y a des petits malins qui font une dalle béton, puis ils mettent 4 gros pots de fleurs, c'est végétalisé. Non, non, il n'y a pas ça à la végétalisation. La vraie, c'est un sorbum, et puis un petit peu de terre de 15, c'est le système Soprema, et puis on a des lichens ou des points de ce type-là qui poussent, on ne va pas faire des foins sur les toits, mais qui poussent, et ça permet d'absorber et que le soleil fasse son boulot en absorption. Ça, même si ce n'est pas écrit dans le PNU, on ne peut pas l'interdire. Là, je vais pas me faire des copains chez les instructeurs, il y en a certains qui disent « c'est pas écrit, on ne peut pas ». Messieurs, retournez à vos cours, c'est illégal. Demain, je l'ai vécu en tant qu'architecte pour une grosse villa que j'ai fait, et mon client voulait ça, on veut simplement attaquer, l'arrêter, on a gagné 2 mois après au tribunal. C'est illégal. Donc, ne faut-il mieux pas le réfléchir dans le règlement et se dire, de toute façon, on ne peut pas faire autrement et de composer avec et de faire des propositions et faire des dessins. Et dans le règlement, nous, ce qu'on propose, parce que le pipeau, c'est bien, vous allez dire, je suis en train de le faire, mais mieux un bon dessin que de longs textes. Parce que les textes, les services instructeurs et les élus sont embêtés. Parce qu'il y a tout le temps de la sémantique qui fait « Ah oui, mais on a dit ça », puis un avocat qui veut du bien, en disant « ça, ça, ça », puis boum, jurisprudence, etc. Donc, on dessine, on fait du texte, bien sûr, mais on essaye de dessiner le plus possible. Et quand on va proposer ça au groupe de travail des élus, on va leur dire « Voilà ce qu'on vous propose », mais on passe par le dessin. Et le dessin, ça provoque la question. Et on dit « Oui, non ». Enfin, c'est plus facile pour tout le monde. Même nous, en tant qu'urbanistes architectes, c'est vachement plus simple. Puis ça sera définir un équilibre entre l'habitat, les espaces verts, qui sont synonymes de ce qu'on dit d'un cadre de vie de qualité, et maintenir une trame végétale, c'est-à-dire les arbres, les arbustes, les haies, dans le centre-bourg. Alors on a fait ce travail, alors on ne trouve pas dans le PRDD, mais on a fait un repérage avec nos paysagistes, alors on a des choses qui nous aident, photo aérienne, photo satellite puissante, parce qu'on est capable de vous dire... Là, on a oublié une paire de chaussures à côté de la piscine. On en est à ce niveau de définition. Ça fait peur, hein. Parce qu'on se dit à un moment donné, si la photo passe au moment où vous êtes en train de vous baigner, c'est tout de même embêtant. Mais on a, c'est n'importe qui peut les trouver, hein. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste en la matière. Donc on arrive à décliner l'ensemble de ces points et à repérer ce qui est de la qualité et ce qui ne l'est pas. On ne va pas embêter les gens, je voyais avec mon sapin de Noël, c'est pas ça qu'on va classer, il faut arrêter les bêtises. Un sapin, ça meurt au bout de 30 ans, donc il faut y arrêter. Par contre, si on a des arbres de qualité, on va les valoriser. Ça, c'est un des premiers points. On a déterminé deux stratégies à l'intérieur de notre raquette de ping-pong, un peu décalée, mais sur la partie qui est ici, avec certains secteurs où là, c'est ce qu'on appelle les 1,6 de dents creuses importantes. C'est-à-dire des points où on peut vraiment urbaniser des choses un peu copieuses. Pourquoi je dis un peu copieuses ? Parce que le réflexe ne va pas être de dire « on n'y met que de la villa ». Si on a le malheur de dire ça, le préfet va nous dire « niet, je veux pas ». Parce que quand on analyse, j'ai perdu le chiffre, c'est pas bien, mais le nombre de villas, la proportion, je crois que c'est également 10%. J'ai un
la proportion. Ouais.
Oui. La proportion de villas individuelles sur votre commune, c'est 84%. Ce que la loi tend, c'est 50-50. Donc dans mon discours, c'est pas simplement pour affoler les foules, c'est simplement pour expliquer, c'est que dans les 40 ans qui vont venir devant nous, les formes urbaines, elles vont changer. Et l'idée de la loi, depuis 2000, la loi Jospin, la loi SRU, c'est en fait de revenir à du village. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des jardins derrière, mais l'idée, c'est de trouver de l'alignement. On le voit avec les lois climat, c'est qu'à un moment donné, c'est pas compliqué à comprendre, quand vous avez froid, vous mettez un manteau, vous mettez un pull. Si ça, c'est en plein vent, ben vous avez froid de ce côté, ça vous refroidit. Si ça, vous êtes serré contre deux murs, il n'y a plus que là, et le dos, qui prend de l'air froid. Ben, proportionnellement, votre corps est refroidi. Plus lentement, ben la construction c'est pareil. J'ai ma maison qui est ici, si j'ai une maison qui est voisine ici, une maison qui est voisine là, je surisole là, je surisole en toiture et le sol, ben à un moment donné, je consomme moins. Enfin, il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour le comprendre ça. Sauf qu'on s'est perdu dans des dédales pendant une quarantaine d'années, où on se dit, de toute façon, la technique va remplacer tout ça. Ouais, elle l'a remplacé. Sauf que maintenant, l'énergie se multiplie par 9, par 10, puis pour l'année prochaine, on annonce 15. Donc ça va être colossal. Et il y a des gens qui vont vous dire je me chauffe ou je mange. Et c'est pas une plaisanterie. Nous, on a dans des réunions publiques des gens qui nous disent de toute façon, nous, c'est soit on mange, soit on chauffe. Et la moyenne qu'on a vue l'hiver passé, il y a certains logements qui n'étaient pas plus de 14 degrés. Ben donc, 14, on se les peine. Hein. C'est pas mince. Je referme la parenthèse, mais c'est important. Et on a 2,1 hectares en division potentielle. Ce qu'on disait, la division, c'est la fameuse, mon bout de terrain qui est au bout, et puis je peux mettre une villa. Les gris, c'est plutôt des espaces plus grands, et les autres, il y a encore des vides sur cette partie-là. Le deuxième orientation qu'on a sur la... Enfin, le deuxième point sur l'orientation 1, c'est contenir l'urbanisation résidentielle dans le centre-bourg. C'est exclure tout développement résidentiel du village en extension urbaine. Alors c'est des mots, mais de toute façon avec le PPRI que vous avez, on ne peut pas faire autrement. Donc même si on le souhaitait, c'est compliqué. Ou alors, comme je disais en rigolant, la cité lacustre, c'est la seule solution. Deux, c'est favoriser le renouvellement urbain, favoriser le renouvellement du tissu urbain en respectant le patrimoine bâti rural. L'idée c'est de se dire, si on a, et c'est le cas, vous avez des beaux de corps bâtiments dans le centre, des vieilles fermes ou des vieilles demeures, qui sont intéressantes. On ne dit pas qu'on ne peut pas les réaménager, on dit simplement... Il y a quand même un aspect architectural qui est sympa. Si on a des dominantes de baies, nos anciens étaient plutôt comme ça, parce qu'ils n'étaient pas fous, on captait le soleil. Donc on avait quelque chose de plutôt de baie, plutôt haute. On ne va pas arriver avec une baie à la Le Corbusier de 10 mètres de long, tout en longueur. Le Corbusier, hein. tout en longueur. Donc l'idée, c'est de dire, bah, prenez attache du patrimoine, vous mettez le nombre de logements que vous voulez dedans, mais faites gaffe, parce que, sur un plan architectural, c'est intéressant. Et vous en avez. Et ça, c'est une vraie richesse. C'est pas loin d'ici. Il y en a. Et c'est un peu dommage de voir où des extensions faites n'importe comment. Le plus bel exemple, on a fait le PLU de Pizet. Ils avaient 5 belles fermes dans le centre. C'est une catastrophe. Donc depuis, on a fait le PLU. On a serré tout ça. Ben, on va en sauver 2, mais il y en a 3. C'est une cata. Hein. Il y a des baies dans tous les sens. Ça n'a pas de logique. C'est horrible. Enfin, c'est laid comme tout. Et c'est en première vue, quand vous arrivez, côté Mont-Louel. Vous dites, c'est pas l'eau. Il y a des pierres, il y a des pilastres en pierre, il y a des choses de ce type-là. Enfin, c'est un peu dommage. Après, c'est permettre la transition paysagère végétale entre les franges urbaines, c'est-à-dire les limites des parcelles bâties en bloc, et les espaces naturels. C'est de se dire, à un moment donné, comment je passe des constructions à la partie agricole ou naturelle. Faut ça se prête, ça c'est des franges qui se prêtent. On peut avoir des petits alignements d'arbres, on peut avoir des bosquets, on peut avoir des bosquets qui sont en plus une richesse pour les chasseurs, en plus ils ont des fusils, donc il ne faut pas dire de bêtises. Et sur ces parties-là, on crée une vraie faune à l'intérieur et on requiert un milieu naturel. Et là, ce qu'on propose nous dans le règlement, c'est d'écrire une petite charte paysagère et on donne des exemples. Parce que souvent les gens, ça part d'un bon sentiment, il y a la promo de Casto ou de Gamme Vert, allez, je mets tout en laurier. Parce que les gens ne savent pas. On leur dit non, essayez de prendre 2-3 points, donc on prend 5 essences courantes que vous trouvez à Casto et à Gamme Vert, et je n'ai pas d'action chez eux, et vous pouvez faire une oreille qui est complètement différente, et on ne se retrouve pas avec des choses où il faut tout italien là le nôtre, et c'est plus agréable pour tout le monde. Donc ça, il y a des choses simples, et c'est pas plus cher, c'est ça le point, c'est qu'à un moment donné, mais les gens vous demandent simplement, bah dites-nous, donc on fait une petite fiche qu'on met dans le règlement, et les élus et le service instructeur peuvent dire, en recommandation de cette partie-là, et ça permet d'aider. Le troisième point, c'est répondre aux besoins démographiques. Donc l'un des points qu'on s'est fixé, c'est permettre une croissance raisonnée, mais pas en évitant de mettre à mal le fonctionnement des équipements communaux. C'est pareil, si vous grossissez trop, ben derrière, il y a des écoles, il y a tous ces phénomènes-là, qui sont des cycles, et ça, c'est un point qui est important. Ça, on n'arrive pas à le mesurer, honnêtement. Il y a une trentaine d'années, même 25 ans en arrière, quand j'ai commencé à faire l'urbanisme, on avait, avec les services de l'État, via les services scolaires, on arrivait à dire, 30 maisons, ils avaient un coefficient qui était dessus, ils ne se trompaient pas beaucoup, on savait le nombre d'enfants qu'il y avait dans les écoles. Maintenant, c'est fini. Avec le prix du foncier, quand vous avez 25-30 balais, puis qu'on vous dit qu'il faut mettre 450 000 sur la tonne, soit papa, maman, un petit peu de sous, soit ils ont piqué leurs parents, et puis dans ce cas-là, ils ont pu vendre la maison, puis ça fait un bénéfice, soit à un moment donné, ils ont une très bonne situation. Mais il ne faut pas pousser non plus, ce n'est pas le cas. Donc, l'idée, c'est de se dire, attention, on a des phénomènes, quelquefois dans la deuxième couronne, qui sont des deuxièmes investissements. C'est-à-dire, les enfants ont été en maternelle et primaire, en milieu urbain, et on arrive ici, c'est plutôt du collège ou du lycée. Et c'est pas pareil. Parce qu'à un moment donné, eh ben, on se retrouve, alors quelquefois il y a des communes, j'ai le cas de communes en tête, qui ont grossi, qui ont fait des groupes scolaires, qui ont mis des classes, et puis on a eu un vieillissement de population. Parce que ce n'était pas des jeunes couples qui revenaient. Donc à un moment donné, ben, il n'y a pas 36 solutions. Il faut arriver à faire du logement, alors c'est le mot tabou, logement social, moi je préfère dire le mot logement aidé. Ce 84,7% de la population en France peut y accéder. Ils ont remonté tous les seuils. À deux, si vous gagnez 4002, vous accédez au logement social. Il faut le savoir. Parce que beaucoup de gens stigmatisent. Mais vous pouvez faire de la qualité là-dessus. Et ça permet de faire ce renouvellement des écoles. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, c'est vrai. Mais un petit peu, ça fait pas de mal. 5 par 6, 6 par 1. On n'est pas là pour faire des grands ensembles de 400 logements. Il ne faut pas pousser, surtout a-t-il. Mais ça, c'est un point qui est important. C'est d'avoir une évolution progressive. L'idée, c'est de se dire 1% sur la période 23-35. C'est tendre vers une population environ de 1500 habitants. On le disait tout à l'heure, s'il y en a 50 de plus, il y en a 50 de plus, s'il y en a 50 de moins, il moins. C'est tendre vers, mais c'est l'esprit. C'est renforcer le parc de résidence principale. Globalement, ça nous donne à peu près une évolution de 20 logements supplémentaires à peu près par an. Alors si vous mélangez le nombre d'années avec 20, et vous multipliez, on va le voir tout à l'heure, avec le coefficient de 2,46, vous dites, mais je suis bien plus haut que ça. Oui, mais sur la commune, le phénomène que vous avez, c'est la décohabitation. Depuis 2008, vous avez un phénomène énorme. En 2008, et depuis 2008, vous avez eu 108 logements construits pour seulement 100 habitants de plus. Donc quand vous regardez ces presse, on pourrait dire que c'est un habitant par logement, ce qui est complètement faux. Mais ça s'est décohabité, c'est-à-dire très vite, et là c'est symptomatique, c'est des deuxièmes opérations qui sont arrivées, des gamins étaient en collège, sont partis au lycée, et hop, ils font leur vie ailleurs. Ou en tout cas, ils habitent plus sur Tille. Donc en fait, il y a une très grosse production de logements, mais en fait, vous perdez des habitants. Et ça, c'est symptomatique. Et vous avez le même problème à Niévros qu'à Tille. Parce que c'est la première couronne directe. Et Montluel aussi. Après, c'est différent. Et sur Saint-Maurice, c'est pas tout à fait le même point, parce qu'on a des lignes de TCL qui permettent de desservir directement. Et ça, ça joue énormément. Donc l'idée, c'est de travailler là-dessus, c'est d'essayer d'augmenter la part du logement moyen, T2 ou T3 principal. Pourquoi ? Parce que, et c'est normal, vous comprendrez très vite, quand on fait de la villa, c'est des T4 ou c'est des T5. Donc la réponse à ça, c'est uniquement du grand logement. Si vous louez cette maison, c'est vite 1000 balles par mois. Et bien à un moment donné, pour des plus jeunes, ou même plus, pour des plus jeunes, c'est plutôt du site 700 euros, voire 750 maxi. Donc si vous voulez avoir une vie à l'intérieur du village, que l'école puisse continuer, que les assos continuent aussi, Il y a une frange de population, il faut quand même la prendre, parce qu'autrement, ça devient le cimetière des éléphants. Et il y a des communes, je ne citerai pas leur nom, mais qui sont après la mieux, qui sont au bout du scot du copain. C'est uniquement ça. Moyenne d'âge, 68 ans. Ce qui veut dire qu'ils ont un coefficient de jeunesse qui est de 0,65. Quand on est en dessous de 1, on commence à dire qu'il y a un problème. Eux, c'est plus qu'un problème. Le PLU se résume à un cimetière. Non, mais c'est la réalité. Ce que j'ai dit au maire, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas vous dire autre chose. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Ah non, mais un cimetière. Mais je l'ai fait exprès pour dire à un moment donné, il faut essayer de trouver des petites zones, appeler, essayer de trouver des gamins, faire un lotissement communal, baisser des prix, essayer de trouver quelque chose. Parce qu'au bout d'un moment, ça va continuer. Parce que, bah, on y va tous, hein. Et c'est important. Après, c'est poursuivre la densification des fonds bâtis sous l'offre de logements en petits collectifs ou intermédiaires. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas que le PLU, là, ce qu'il va y donner, soit une réponse uniquement à du pavillonnaire. On ne pourra pas, et on se fera reprendre par la patrouille. Veiller à maintenir l'offre existante de logements locatifs, ça c'est important, c'est facile à dire, mais c'est important à faire. Et puis, essayer d'avoir une offre, et là c'est le SCOT qui nous l'impose. Si on veut être dans les clous du SCOT, du schéma de cohérence territoriale, il nous faut à peu près 30% de logements aidés, global, je m'entends. C'est pas chaque opération où il faut 30%, et je fais hypothèse 10 logements, c'est 3 logements. Non, vous pouvez bien dire un endroit, on réserve 14 logements pour du locatif, et puis on en fait 8 à côté, c'est l'habitat traditionnel. Le SCOT ne dit pas c'est par opération, donc nous on conseille de ne pas s'enfermer là-dedans, parce qu'autrement vous êtes eu chaque fois. Donc mettez une globale, puis c'est sur le nombre de logements qu'il y aura à faire, il faudra petit à petit, et s'étendre vers. On ne va pas vous mettre un coup de fusil, puisque vous n'avez pas l'obligation directe, au sens comme les communes de plus de 5000 habitants, d'avoir forcément 20%. Une commune de plus de 5000 habitants, si elle n'a pas 20%, le préfet, il vous en manque, c'est le cas de Bagneux, il en manque 110. Chaque année, ils leur prélèvent 210 000 euros sur leur budget. Mais ils ne posent pas la question en disant merci de nous envoyer le mandat. Ils vont se servir direct. Moi, j'ai une commune chassée d'Azerbe qu'on a fait, qui fait 5 700 habitants. Eux, ils n'ont pas de vrai choix. C'est 830 000 chaque année qu'ils prennent. Ils ont 27 logements sociaux sur 311. Mais c'est un choix. Le conseil municipal a dit, on l'assume. Ils ont des retombées financières énormes. Je ne dirais pas que c'est une goutte d'eau, mais ils l'assument. Après, c'est de se poser la question. J'ai peur pour votre budget, mais vous n'êtes pas dans ce cas, parce que vous n'avez pas 5000 habitants, donc vous êtes tranquille. Mais tout de même, le SCOT dit, nous, il faut tendre vers, il faut que l'effort soit partagé. Puis là, on vous a mis des petits exemples, alors on se vend, hein, mais c'est le concours qu'on vient de gagner sur Saint-Jean-de-Niost, c'est de la densification urbaine. Là-dessus, il y a 3200 m² et on est à 35 logements à l'hectare. Ben, je vous invite, on va faire, pas tout de suite, mais on dépose le permis dans un mois, on va attaquer le chantier, mais dans 2 ans, on va tous le voir. Et vous verrez, c'est rien du tout ça, en densité. C'est du R et du R plus 1. Là, j'ai des logements pour des papiers mamies en rez-de-chaussée, une petite maison là, et du R plus 1 ici, et des baraques là. Ça fait pas peur. Le chiffre fait peur, mais la réalité dessinée ne le fait pas. Allez voir Pizet à l'entrée, on a fait une opération avec la SEMCODA, c'est 26 logements à l'hectare. Ben, allez voir. Et vous verrez, il y a de la maison individuelle, de la maison groupée, puis un petit collectif de 6, 7, 4 pour les papiers mamies d'un côté, puis pour les jeunes de l'autre. Et on est en plein dans la densification imposée par l'État. L'orientation 2, c'est améliorer le fonctionnement urbain communal et l'offre de réponse aux habitants. Donc, dans la hiérarchie, c'est répondre à l'évolution des besoins, c'est renforcer le nombre de logements adaptés aux besoins spécifiques des petits ménages, on l'a dit tout à l'heure, le nombre de T2 et T3, il faut travailler aussi là-dessus, conforter la présence de commerces de proximité et de services. Donc, c'est encourager. Il y a quelquefois des urbanistes qui disent oh, « on va faire ça, ça les attire ». Il y a un vieil adage qui est tout bête. S'il y a du business à faire, vous aurez du commerce. S'il n'y a pas le business, le gars, il ne va pas ouvrir un commerce pour faire 100 balles par jour. Il faut être pragmatique en la matière. Donc là, l'intérêt, c'est que vous en avez un, bah, c'est de renforcer ça, c'est de fabriquer des outils qui permettent de le faire. Je vous donne un exemple très simple, et j'en finirai sur cet exemple-là. Vous avez demain un rez-de-chaussée, vous avez un petit commerce qui veut s'installer. Il n'a pas de terrain. Dans le règlement, on lui dit, chaque commerce, il faut une place de stationnement par 25 mètres carrés. Il a 50, il lui faut 2 places. Il n'a pas de terrain, il ne peut pas faire, au fil du permis de construire. Bah, à un moment donné, il faut faire la même chose à l'envers. Bon, on va dire peut-être, c'est une solution que je propose, on verra ce que le groupe de travail dit. Bah, peut-être qu'on va dire pour les rez-de-chaussée où il y a du commerce, il n'y a pas de stationnement. puis le stationnement, si on veut faire mieux, on le trouve sur le domaine public. Et puis, bah, si c'est un petit peu le bins au milieu, bah, il faut peut-être réorganiser et trouver. Mais au moins, on gagne le commerce. Après, c'est un choix. Est-ce qu'on fait un commerce ou pas? Nous, on est en train de faire payer du Tosia. Ils sont plein dedans. 6 commerces, 5 qui s'arrêtent pour la retraite. 5 repreneurs. Le règlement, il dit 3 places par meuble de 50. Ils n'ont pas derrière. Personne ne rachète. Et bien, dans le PNU, on va faire un document spécifique. Et on va dire, il n'y a pas de place. On a dit ça au futur acquéreur. Les gars, ils disent, quand est-ce que la modif est faite, on achète. Hein. Il n'en faut pas plus. Et à un moment donné, ce n'est pas le règlement qui conduit les idées et le rêve, c'est le rêve qui construit un projet, et le règlement, c'est qu'un outil. C'est comme un charpentier. Il a besoin de faire une ferme, il va la dessiner, une fois qu'elle est dessinée, nous c'est Paris en PLU, on va aller prendre une égoïne, puis on va couper ce qu'il faut. Ben, Massy, c'est le règlement, ils ont dit. Permettre des solutions alternatives sur les commerces traditionnels, alors se pose la question aussi, c'est de ne pas fermer. C'est peut-être se dire, bah, est-ce que, et vous avez le cas, vous avez un gars qui fait, je crois, c'est du pizza,
oui.
Qui est là. Bah, ça, dans le règlement, il faut prévoir des choses, de façon à dire, bah, faut être. C'est compliqué parce qu'il faut se dire, faut s'ouvrir, mais on a tout le temps un petit malin qui vient se mettre, on n'aurait pas aimé l'avoir. Donc il faut être assez rigide, mais tout en étant souple. Il faut trouver des solutions pour qu'à un moment donné, bah, on puisse avoir une qualité de vie qui se crée. Favoriser les mobilités actives et alternatives. Ou à la voiture thermique, ou aux individus. Alors ça fait très kitsch, hein, c'est le moment où tout le monde en parle et autres. Moi, j'ai un de mes bons copains qui est designer général de chez Renault. Il me dit, tu peux me raconter tout ce que tu veux, nous, on a des plans à 50 ans. Donc la voiture, elle sera toujours là, on passera peut-être à l'hydrogène, à l'électrique, ou autre chose, mais à un moment donné, on aura toujours la voiture. Donc, il ne faut pas se leurrer. Le jour où il y aura une bouche de métro en face de la mairie, et que vous aurez un réseau de bus qui attend, c'est toutes les 10 minutes ici, on aura vachement avancé. C'est pas le cas. Donc il faut trouver quand même des alternatives et lire la voiture, on est obligé de l'avoir. Enfin, il n'y a pas besoin de faire de grandes études. Donc on dit simplement, ça fait plaisir à l'État, il y a des bornes de recharge, il y a des modes actifs, c'est des mots, hein, pour être clair. Mais il y a des mots quand même qui sont intéressants, et vous l'avez fait, il y a des aménagements qui sont possibles sur l'entrée nord de Tille pour aller peut-être plus loin en vélo ou en trotte ou autre, peut-être aller choper un train sur Saint-Maurice. Ou sur les autres gares. Donc, mais non. Donc il faut qu'on trouve à un moment donné des solutions qui vous permettent d'offrir aux habitants une possibilité d'y aller. Alors moi j'ai tout le temps un vieil adage, je pense qu'en matière d'urbanisme, il faut toujours avoir les pleines possibilités. Il ne faut pas enfermer un système, il faut donner plusieurs systèmes. Puis après le gars qui aime faire du vélo, il y va en vélo, celui qui aime faire de la trotte, il y va en trotte, celui qui aime une voiture, ben, il y va en voiture. Et là, on est actuellement, je trouve, dans une politique de l'État en train de monter les gens contre les gens. Et ça, c'est pas bon. Et c'est, on en parlera tout à l'heure comme les énergies. On a besoin de tout. Il y a les contre les grandes productions nucléaires, il y a ceux qui sont contre le solaire. Non, on est obligé, avec toutes les demandes qu'on a, parce qu'on est en train de dire qu'il faut de la paille de partout, on n'est pas capable de produire. Hein. Donc à un moment donné, on a beau mettre la PAC, quand on aura une PAC qui ne démarre pas, quand il fait moins 15 dehors, on va dire, tiens, c'est peut-être bien de boire, hein, avec un petit poil, c'est peut-être pas mal. Mais là, on est en train, il paraît que c'est nocif. Mais bon, ça c'est une autre discussion. Mais je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on monte. Donc l'idée, dans le PADD, on a dit, il faut offrir des possibilités à tout le monde, il faut essayer de regarder plus tard comment on les fera, parce que le pays, lui, ne va pas nous régler. Hein. Il ne va pas y avoir un plan avec toutes les rues en disant « fait comme ça ». Non, il va donner des directions, puis après, en fonction de la trésorerie de la collectivité, en fonction des possibilités, on avancera et vous avancerez petit à petit dessus. Deux, c'est sécuriser le déplacement piéton cycle non motorisé sur la commune en offrant des maillages. Et ça, je crois que c'est un point important. Et vous l'avez. Mais là, je vais être le méchant garçon, il y a des choses qui sont faites là-bas. Purée, il y a des bouts de murs qui ont été montés entre les lotissements. À la base, il fallait le lien. Et il n'y aurait qu'une porte de 90, parce qu'on a fait du terrain. C'est-à-dire, on a fait tous les coins. Il y a des endroits, on a envie d'avoir une pioche, puis de casser un petit bout de mur pour dire, oh, là, il y a un point qui a été mis. Là, il y a un passage, logiquement. Et il y aurait le passage, bah, à pied, c'est 13 minutes de plus. Bah, après, on se dit, tiens, on peut limiter les transports. Imaginons que ça soit votre grand-mère ou votre grand-père qui est là. Bah, le papy, il se dit, bah, je suis nul, je reste chez moi. C'est bête, c'est binaire, mais c'est ça la vraie vie. Développer les connexions de stationnement dédiées aux modes actifs avec des nouveaux modes d'ensemble. Considérer l'exclusion de l'étalement urbain et favoriser donc, la mobilité active. Donc, ça, c'est aussi des mots, mais ça, c'est important. Regarder comment on peut faire l'itinéraire pédestre. Alors, j'ai un grand spécialiste à côté de moi. C'est l'homme qui parle à l'oreille des vélos. Sur toutes les opérations, il prend le centre. Et vous verrez, quand on va étudier après, il va vous dire, moi en vélo, là je mets 4 minutes, 12, là je mets 2 minutes et quelques. Parce qu'il l'a fait. Donc dans toutes les communes, il se balade à vélo et clap, et on regarde ce que ça donne. Ben, on est étonné, en 10 minutes on peut aller, honnêtement. Alors bon, c'est moi qui dis ça, qui suis tout le temps fait dans une voiture. Mais objectivement, quand on n'en a pas forcément besoin, ben, prendre un vélo, ça peut marcher. Et puis marcher un petit peu à pied, ça fait du bien aussi. Limiter le report du stationnement résidentiel sur la voie publique, et ça, c'est, alors pour vous, c'est un point important. On s'aperçoit que, oui, les permis ont été donnés, mais le garage, il y a la place. Qu'est-ce qu'on observe? À un moment donné, le garage, ça devient la quatrième ou la troisième chambre. Parce qu'il y a un petit canet, on n'a pas la place. Donc, on fait un changement de destination. Puis on dit, à un moment donné, ben, on aménage le garage en chambre ou autre. Sauf que la place de stationnement a disparu, et on la retrouve où? Dans la rue. C'est ces mêmes qui disent, ah, ma mère, je vous dis, ouais, vous êtes gentils. Donc là, il y a des choses. Alors là, on est très méchant dans les règlements. On dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez agrandir, vous pouvez aménager, non, à condition que s'il y avait deux places, on les retrouve. Alors quand vous avez des voies qui sont larges, ça ne pose pas de problème. On n'écrit pas ça. Mais dans votre cas, a-t-il, on va être obligé d'écrire. Parce que, je reviens sur la sécurité, si on retrouve 5-6 bagnoles mal placées, ça va être une catastrophe. Après, c'est ne pas nier le besoin en stationnement des visiteurs. Ça aussi, parce que bien souvent, on dit, enfin, il y en a que deux sur cette partie-là. Oui, il y en a peut-être que deux. Mais à un moment donné, bon, on peut avoir des copains qui viennent, on peut avoir des amis, et on se retrouve avec des points. Donc là, avec la commune, on peut essayer de trouver des espaces mutualisés. Mais à un moment donné, et c'est là que ça fait rager. Le promoteur qui a fait l'opération, lui, fait une opération. Il divise, il vend du lot, terminé, prend son pognon, et après, l'habite tous les jours, c'est les habitants et la collectivité. Eh ben non, c'est le ménageur. Vous allez prévoir des places pour les visiteurs, vous allez mettre, que ça vous plaise ou non, il y aura peut-être de l'eau de moins, et ben tant pis, vous gagnez un petit peu moins de pognon, mais à un moment donné, il y aura une qualité de vie qui va se créer au sein de l'OTIN. Et c'est là-dessus que, avec le groupe de travail, on va travailler maintenant plus en profondeur, mais il faut qu'on l'annonce dans le PRDD. Alors vous allez me dire, c'est que des mots. Ouais, mais un PRDD, c'est que des mots. Et puis un bout de carte que vous allez voir, mais qui est très simple après. Après, dans le 2, c'est accompagner la potentialité de l'évolution du développement de la zone d'activité. Alors, c'est continuer à soutenir les projets intercommunaux, parce que là, il y a une logique intercommunale. C'est préserver tout le secteur agricole, parce qu'on parle de zone d'activité, mais les zones agricoles, c'est une super zone d'activité. Hein. C'est grâce à eux que, un, c'est les plus grands paysagistes de nos temps. Ils entretiennent, ils nettoient, et ils ont la connaissance du lieu. Souvent, on l'oublie un petit peu. Donc ça, il ne faut pas l'oublier sur cette partie-là. Et c'est permettre la poursuite des activités économiques en lien avec le maraîchage et l'horticulture, qui est hyper importante dans votre commune. J'aurais pas le même. Il n'y a pas beaucoup de communes où je sais ce qu'on a. Hein. C'est hyper important chez vous. Donc l'idée, c'est de mettre des règlements après, qui ne viennent pas les bloquer, qu'on puisse discuter avec eux, et qu'on dise, voilà, est-ce que vous avez des projets d'extension, comment on peut les voir, le règlement, il ne vous bloque pas, etc. Donc ce n'est pas du clientélisme, c'est simplement de se dire, bah, ceux qui existent, on va peut-être essayer de trouver des outils qui ne les bloquent pas, qui soient en adéquation avec toutes les contraintes, parce que je ne l'ai pas dit, mais en gros, un PLU, vous avez un gâteau qui est devant vous, magnifique cerise qui est dessus, puis vous avez à peu près 10 à 12% de part de liberté. Tout le reste, c'est des impositions. Et il y a 10 ans en arrière, j'étais à 16%, là on est à 12%, et je pense qu'en 2030, on sera à 8%. Donc ça, c'est terrible, parce qu'en fait, c'est les lois de décentralisation de Mitterrand 81. L'idée, c'est de partir sur les freelances comme les Allemands. Les Allemands, ils ne discutent pas de petits PLU comme ça, ils discutent les PLU au niveau de la région. Et il y a un entonnoir, ça tombe, on vous dit, c'est ça. Vous, vous êtes ville dortoir, pas d'activité, vous êtes ville industrielle. C'est le plan allemand. Enfin, il n'y a plus de problème. Et nous, alors nous, on est judéo-chrétiens, et on aime bien râler. Donc à un moment donné, avant qu'on ait ça, je peux vous dire qu'il va couler de l'eau sous les ponts. Hein. Et il y a l'Italie qui est pareil, il y a l'Espagne qui est pareil. Enfin, ces trois identités, ces trois pays, on est bien comme ça. Le reste, ben, c'est une culture allemande, c'est autre chose, c'est une autre démarche. C'est pas une critique, c'est un constat. Bon, je travaillais avec eux, donc je vois comment ils travaillent. Grande gentillesse, il m'appelle Rommel ou il m'appelle Ramel, mais bon, ça se fait. C'est quand ça va pas, donc ils veulent me provoquer un peu. Donc je leur dis, bougez pas, j'attache mon chameau, je secoue mon sable, et je suis à vous. Oui. Donc après, c'est poursuivre l'accroissement de la qualité des équipements publics, c'est pérenniser les équipements publics en vecteur avec le lien social aussi. quand on dit social, bah c'est, on est là, c'est la gym qui est à côté, c'est tous ces points, c'est trouver des équipements qui fassent vivre les associations. C'est les besoins fonciers nécessaires aux équipements publics, donc c'est de réfléchir, on a commencé à regarder ces points-là, c'est qu'à un moment donné, vous avez aussi des besoins maintenant, dans 10 ou dans 15 ans, bah c'est de faire de façon que ce qui va se construire, on ne vient pas bloquer, on ne dit pas là, on était pas long, parce que si on avait réfléchi, on aurait peut-être laissé 10 mètres de plus, ça permettait de faire, mais il faut qu'on achète un terrain, il faut ci ou là, et je vous rappelle que vous êtes cerné par la zone rouge, le club PRI. Aucun établissement recevant du public dans une zone rouge, et dans une bleue, sous condition. Donc c'est très compliqué. Donc le cœur qui est ici, bah, faut quand même le préserver pour qu'à un moment donné, vous puissiez évoluer demain sur cette partie-là. Adopter une liste d'espace public et la structure de population. Et je l'ai dit tout à l'heure, d'un côté, il faut trouver des solutions pour permettre d'accueillir des jeunes pour faire votre équilibre de population. Mais d'un autre côté, on n'est pas là pour emmener aux vétérinaires nos populations anciennes. Et leur dire, c'est, on nous tient la main, puis c'est fini. Il faut aussi réfléchir sur un peu d'habitat pour les papy-mamies. C'est du petit T2, c'est des choses de ce type-là, où beaucoup d'anciens disent, moi, je ne veux pas partir de ma commune. J'ai mes racines qui sont là. Je ne peux plus entretenir, je ne peux plus rien faire, puis je n'ai peut-être pas les moyens. Ben, si je pouvais avoir un petit logement dans les opérations que vous avez, qui vont se mettre en place, et que notre papy-mamie puisse vivre tranquillement sa fin de vie, et je vends peut-être mon bien, mon vivant, et je donne de l'argent à mes gamins, pour qu'eux-mêmes donnent de l'argent à leurs enfants, pour qu'ils puissent construire sur le coin, parce que c'est cher. Ben c'est toute une route. Ça paraît idiot ce que je dis, mais c'est la vraie vie de tous les jours. Et en matière d'urbanisme, on a beau se gargariser de tous les côtés. Moi, je suis conseiller pour l'État. Quand j'entends les textes, je me marche à fois. Le ministère qui dit, pourquoi vous rigolez? Parce que vous perdez votre cerveau. Quand on est dans, ici, puis qu'on monte à Paris, d'un seul coup, alors les jeunes disent, moi, mes gamins et mes jeunes collaborateurs disent, attention, on prend le boulard. Il y a les portes de 90, il faut mettre des portes de 140, parce qu'on a une tête qui est gonflée comme ça. Et je crois qu'en matière d'urbanisme, il y a beaucoup de cas. Il faut être pragmatique. Et ça, je crois que c'est important. Comment vous allez pouvoir répondre dans votre PLU au vieillissement de population, et comment vous pourrez offrir des petits logements sur cette partie-là, et comment vous pourrez offrir à des jeunes ménages de venir pour faire vivre les écoles, puis faire de la vie, tout simplement. Demain, on se fait un banquet à l'Obélix et à l'Astérix au milieu de Thiel. Et bien, à un moment donné, il ne faut pas que ça soit des têtes blanches, il faut qu'il y ait tout. Et ça, c'est la vraie vie. Étudier les nouvelles possibilités de valorisation des espaces publics. C'est pareil, un espace public, ça n'a pas besoin de faire 200 mètres. Je vous invite à aller à Barcelone, vous balancez et vous baladez dans le cœur de Barcelone. Les espaces publics font entre 27 et 47 mètres carrés. Il y a un arbre, il y a un banc, bon endroit. Vous vous posez, vous écoutez, vous les êtes tranquilles. Ben ça, vous ponctuez tous les 50-60 mètres. Et ben, il y a des papy-mamies qui seraient ravis, puis il y a des jeunes couples aussi qui aillent à la poussette, ben, tiens, je m'assois, puis je regarde le paysage. Et vous avez une chose magnifique, c'est toute la balade le long du Rhône. C'est exceptionnel. Alors, quand on arrive en voiture, d'un seul coup, c'est de glaga gauche tout de suite, 90 degrés. Mais là, il y aurait des choses à aménager très simples. C'est superbe. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Assurer la collecte optimisée des déchets, ça aussi, c'est une vraie question. Quand on a des rues qui sont toutes petites et qu'on a des camions poubelles qui ont du mal à passer, ben à un moment donné, on dit aux gens, ben vous emmenez vos bacs, puis on y va. Si on leur dit, ben c'est bien, vous habitez en bas, il faut monter jusqu'à l'autoroute pour poser votre bac, ça va couiner. Donc il faut qu'on puisse aussi réfléchir à des petits espaces où on puisse stocker ces points-là, puis surtout que le camion poubelle puisse y aller. Enfin, ça paraît bête, mais c'est pragmatique, et il faut trouver des solutions. Et permettre un accès de bonne qualité aussi au réseau de communication numérique. Alors ça, je ne rentrerai pas dans le débat. Ça s'appelle la fibre. Il faut qu'on l'écrive, on le met. Moi, je ne sais pas faire, c'est pas parce que c'est dans le pays que demain, vous avez tous la fibre. Bref. Le 3, c'est composer les risques naturels et réduire la vulnérabilité du village. Alors, on est très provocant, hein, mais... Là, c'est Venise. C'est pour ça que je parlais de cité lacustre tout à l'heure. C'est privilégier le développement donc, dans les parties du territoire qui sont moins exposées. Alors vous allez dire, je fonce une porte ouverte, hein. Je suis obligé de l'écrire, mais dans tous les faits, on l'écrit. Mais on ne peut pas faire autrement, juridiquement. C'est adopter des règles de construction qui soient agréées et gérées au niveau de l'aléa. Et ça, c'est important. C'est tout ce qui est vide sanitaire. Et à un moment donné, on ne va pas se raconter. Moi, je suis quelqu'un qui suis très cash, vous avez dû voir, une petite heure. Les sous-sols, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. on ne peut pas sur ces parties-là. Il faut qu'il y ait des guides sanitaires qui laissent passer la flotte. Mais c'est pour aider les gens. Et il y a des niveaux d'altimétrie. Oui, ça fait plus cher qu'on construit, parce que si on dit qu'il faut être 70 au-dessus. Mais quand vous avez 70 d'eau, vous dites finalement, je suis bien content que le maire m'ait imposé ce truc-là, parce que finalement, je ne suis pas les pieds dans l'eau. Parce que si je suis au niveau du terrain, eh ben, je pagaie, 70 cm d'eau dans une baraque, deux fois, elle est morte la baraque. C'est champignonnaire, et vous avez beau tout faire, c'est le problème. Et c'est maîtriser le développement en limitant l'artificialisation des sols. Ça aussi, ça rentre dans la conscience. C'est de se dire à un moment donné, on ne peut pas tout mettre en enrobé, on ne peut pas tout mettre en béton. Donc c'est des éponges naturelles. Quand on a construit 13 000 m² et qu'on met une maison qui a une emprise de 100 m² au sol, eh ben, on va mettre des coefficients d'espace vert, de pleine terre. Alors on ne les a pas arrêtés encore, mais c'est l'esprit. Parce que là, le législateur nous a rattrapés. L'État a des super, super satellites qui vont encore plus loin que nous. Ils sont en train de nous dire, je prends la parcelle, je vous dis ce qu'est la maison, je vous dis ce qui est en enrobé, je vous dis ce qui est en béton, je vous dis la piscine et je vous dis ce qui est de les terrasses. Je mélange tout ça et je vous dis que vous avez un coefficient d'imperméabilisation qui est bien trop haut. Et ça, ils sont en train de nous le faire. Hein. La base qui analyse ça, c'est Ambérieu. Il y a 6 infographistes qui font que ça toute la journée. Ils prennent toutes les communes et ils balayent. Et ils y vont. Et ils nous sortent ces chiffres en disant, non, vous êtes... Alors jusqu'en 27, c'est en enrobé. On peut leur dire, messieurs, la loi, elle le dit à partir de 27. Sauf que 27, c'est un peu de temps. Hein. Et là, je peux vous dire qu'à partir de 27, ils vont se gargariser. Ils vont nous dire, non, les hectares que vous avez, les 3,5 qu'on a mis, ce ne sera plus ça. En étant clair, vous allez encore diminuer de moitié. Parce qu'on a vu que sur votre commune, ben, il n'y avait pas beaucoup d'espace vert dans les villas. Il y avait beaucoup de zones qui étaient imperméabilisées. Et ça se comprend, quand vous avez un autre 400 m², vous mettez la maison, vous mettez la piscine, vous mettez l'espace, et la culture actuelle, c'est pas une critique, mais les populations plus jeunes que nous, actuellement, tondre et machiner, tintin. Si c'est tout en enrobé, j'ai qu'un coup de balai à donner, ça me va très bien. Sauf que tout ça, bah, si on le fait 10 fois, ça permettait de faire peut-être 5 maisons en plus, ça va permettre seulement d'en faire 2, et 10 ans après, ça sera 0. Donc on est dans cette notion d'imperméabilisation. C'est mon éponge et je fous de la flotte dessus. Si j'ai plus d'éponge où je peux absorber, eh ben on est eu. Donc ça, il faut qu'on y pense maintenant. En tout cas, il faut qu'on en parle dans le PRDD, parce que si on n'en parle pas, on va se faire reprendre par la patrouille. Alors, le foncier, avec le, quand vous regardez votre commune, tout ce qui est en rouge, impossible. Vous en avez des landes qui arrivent ici, vous avez des landes qui arrivent là, vous avez tout le tour. Vous avez du bleu foncé, où on vous dit oui, mais alors il y a des conditions draconiennes, puis vous avez un peu de bleu clair. Bon, puis la conclusion, c'est que la commune, elle est toute dans ce schéma-là. Donc, vous avez vu qu'on peut faire des choses ici. Mais globalement, en résumé très court, là, on ne peut rien y faire. Ici, c'est même pas la peine. Là, le monde agricole, il vous dit, vous plaisantez, et là, c'est Satolas qui intervient, enfin, Saint-Exupéry. Non, les densités de population sont trop fortes. Et puis là, en bas, c'est ma cité lacustre, et puis ici, c'est fait. Bon. Vous avez compris, hein, le développement, c'est vite vu. On prend le dessin de l'emprise urbaine qui est ici, hop, et puis on se met dedans, et puis on regarde. Mais est-ce que la volonté, c'est de dire on remplit tous les vides, et puis on fait, ben, la volonté, c'est non. C'est de dire, en gros, on contient à peu près 3 hectares 2, à peu près. Vous avez vu qu'il en restait 7,5, donc on divise déjà par 2. Ça, c'est la loi d'artificialisation, parce qu'il faut tendre vers. Et derrière, on met des espaces verts à l'intérieur des espaces. Oui, des gens vont râler, il ne faut pas se leurrer. Ils viendront voir, c'est pas grave. C'est mon rôle. Mais à un moment donné, si vraiment on veut avoir 1500 habitants dans l'esprit environ et avoir de la qualité, ben c'est ce qu'il faut donner, c'est-à-dire de 7,7, il faut en ramener à 3,1. Autrement, on n'y arrive pas. Et ce que vous allez avoir, c'est une dégradation paysagère, de vie et de qualité au sein de l'île. Donc voilà sur les points sur lesquels majeur on voulait arriver. Après, vous avez toute la préservation des boisements et des alignements d'arbres. Vous avez les dimensions végétales dans les opérations. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que les gens plantent. Prévoir un traitement de la limite séparative. Et ça, c'est important. Je l'ai dit tout à l'heure, avant 2000, ça, on avait des minimums, 1000-1500, je suis sur Coton de la table, vous avez des terrains, parce que c'était des obligations. Vous n'aviez peut-être pas envie d'avoir des terrains aussi grands, mais on vous disait, si vous vouliez construire, c'était ça. Maintenant, il n'y a plus. Donc, du moment, on calibre quoi ? L'implantation par rapport à la rue, l'implantation par rapport aux voisins et la hauteur. Il faut qu'on a dessiné ça, c'est le calibrage, plus maintenant, on va avoir des espaces verts sur l'artificialisation. Il faut qu'on a mis ça, ça nous détermine un polygone d'implantation. Sauf que par rapport à ces points-là, on a un truc qui est très compliqué actuellement, c'est le traitement de la limite. On fait des terrains de plus en plus petits. Et les gens, pour la plupart, ça n'aide plus beaucoup. Donc au bout d'un moment, vous avez le klebs qui gueule, vous avez le gamin qui fait du bruit, vous avez la piscine avec la bombe qu'on disait tout à l'heure, et monsieur le maire fait quelque chose, hein, c'est pour votre police, il faut arrêter. Ah ouais, mais quand vous passez de 1000, puis vous en mettez un, puis vous en mettez 3 ou 4 après, mais il n'y a pas de secret, hein, on se bouffe la rate. Hein. Donc, à un moment donné, il faut trouver des solutions. La solution, et nous pensons qu'il faut absolument traiter la limite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser un blanc-seing à un aménageur qui dit « Oh là, vous mettez votre clôture, vous ferez bien ce que vous voudrez. » Après, vous verrez, vous irez voir votre voisin, il est super sympa, tout va bien. Tomber sur un gars qui a pas envie d'être embêté, vous dites « Bon, c'est un mur de 2 mètres, etc. » Donc ça, ce n'est pas simple, mais on va le travailler avec la commission pour dire à un moment donné, il faut qu'on traite cette limite. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on impose? Le végétal, est-ce qu'il y a un bout de mur ou pas? En Europe, il y a des gens qui sont très forts là-dessus, c'est les Anglais. Les Anglais, la terrible théorie Hall 1850, vous allez en Angleterre, vous allez à Bath, vous allez vous balader, c'est à 50 km, c'est beau comme tout. Il y a 1800 logements dans un lotissement, il y a du vallonnement. Il n'y a pas, mais quand je dis pas, il n'y a pas un endroit où Vauteuil est contrarié avec le voisin. Il y a un petit traitement du mur, il y a un dessin, mais c'est pas fait après. Quand ça a été fait à l'époque, ils ont dessiné, c'est des maisons de 57 mètres carrés, hein. Donc c'est pas grand, hein. Plus une chambre à l'étage seulement. Ben, ils ont dessiné la limite. Ils ont... Alors, il y a le flemme anglais, il y a la culture anglaise qui est là. Nous, on est latins, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, c'est important. Et eux, ils ont traité tout ça. Ben, c'est magnifique, vous êtes là au milieu. Vous entendez la bille, vous entendez des gamins qui gueulent, oui. Des gars qui font des barbecues, qui boivent des bières. Mais il n'y a aucun problème. Hein. Il y a un équilibre là-dessus. Donc, il faut traiter cette limite. Ça fait 40 ans en France qu'on l'a abandonnée. Ça, je le dis au fort, je suis architecte, je peux me permettre de le dire. Les architectes ont dit à un moment donné, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas pour les grands projets. Ben, le monde a horreur du bide, hein. Et il y a des gens qui sont arrivés, qui ont fait des lotissements, et qui n'ont plus demandé des problèmes, et qui n'ont plus demandé à des architectes de le régler. Ça, c'est dommage. Donc, il faut qu'on mette quelques règles dans le document. Et puis, c'est privilégié tout ce qui est essence locale. Je le disais tout à l'heure, sur le tournant de la rigolade. Mais quand Casto et Gambert font sa promo de IF et de Laurier, ben, il y a d'autres choses à mettre qui coûtent moins cher. Donc, il y a des points de composition intéressants. Alors ça, ce n'est que des exemples. Vous avez des tilleuls argentés magnifiques, vous avez des sets du Liban, vous avez des points de ce type-là. Imaginons, là, quand on voit la construction de cette maison ici, enfin de ce R plus 1, R plus 2 dans les combles, il y a un arbre qui est magnifique. On imagine demain que cet arbre a été coupé. Et le projet, ce n'est pas du tout la même perception. Ben avec ça, dans mon propos, je vais être dur, mais ça fait passer un peu plus la pilule. Et on se dit, bah tiens, ils ont conservé l'arbre, c'est quand même plus agréable. Donc on a repéré, vous le verrez au moment du zonage, avec nos deux paysagistes de l'agence, on a repéré tout un ensemble de points, mais identifiés. Vous le regarderez, puis vous verrez, puis à l'enquête publique, à chaque habitant, il mettra son avis dessus. Alors, tout ce qui est sapin, tout ce qui n'a pas de consistance, tout ça a été évacué, c'est pas la peine. Mais on a une vraie richesse végétale, et quand on dit au changement climatique, moi, chez moi, j'ai un tilleul plein sud. Et je peux vous assurer que les structures à côté couvertes qu'on a, j'ai 10 degrés d'écart au même moment entre la toile et sous le tilleul. Il y a un truc tout bête, je suis mon chien. Lui, il va se coucher où ses frères. Et il se met tout le temps sous le tilleul. Le déjeuner dessous, on est vachement bien. À midi, qu'autrement, c'est intenable. C'est pas possible. Et ça, il faut qu'on le prenne en compte. Un aménageur, il en a rien à battre. On va pas se voiler la face. Moi, je travaille pour eux, et je travaille pour ceux qui ont cette démarche-là. Sur 10, il y en a 2. Dans le Rhône-Alpes. 2. Uniquement. Je tairai les noms, je n'ai pas le droit de le dire, autrement, on va dire je fais de la pub, mais il n'y en a que 2. Tout le reste, ils disent, premier point, on va faire une analyse paysagère, on va regarder ce qui m'en est. Donc on a travaillé là-dessus. Donc globalement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a un point très important, c'est qu'à l'intérieur du tissu qui est ici, si on va avoir l'objectif de 1500 habitants et 3 hectares, il y a environ une trame verte à écarter qui représente à peu près 4 hectares. Si on veut avoir des poumons bains à l'intérieur. Ça n'empêche pas, à l'intérieur de ces points-là, d'agrandir sa maison, parce qu'on va dire que l'agrandissement de la maison est autorisé. Ça n'empêche pas de faire son garage, ça n'empêche pas de faire une piscine, mais ce que ça empêche, c'est des nouvelles constructions. Parce qu'il ne faut pas explorer une baraque, ça sera 3 véhicules. Donc vous en avez 10, c'est 30 bagnoles de plus. C'est ingérable sur votre commune. En tout cas, nous, c'est ce qu'on vous évoque. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais ça, c'est important. Et là, de 2023 à 2035, à un moment donné, il va falloir écarter ce point-là. Il y a une question de fond qui pourrait se poser. Tandis qu'on a du rouge ici, du rouge ici, du rouge là. À un moment donné, donner timidarité et ses limites, naturellement. C'est-à-dire, moi, je mets mon billet, dans 30 ans, on se retrouve autour de la Tomme, vous aurez 1700 à 1800 habitants, pas plus, et on ne pourra pas aller au-delà. On ne va pas faire la tour de la Défense, là, au milieu, avec 80 niveaux, comme à Toronto. Donc, ça va se savoir. Mais objectivement, eh ben, on va avoir des villages qui vont arriver aux limites de leur urbanisation potentielle. Alors, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, mais c'est ainsi, avec le risque. Et je peux vous dire qu'en matière de risque, les préfets sont de plus en plus durs pour les maires et les équipes municipales. Parce que bah, derrière, il y a quoi ? Ça s'appelle un assureur. Puis les assureurs, ils ne veulent plus assurer des choses. Ils sont obligés de sortir chéquer de tous les côtés. On a un point qui est important sur ça, la préservation de la ressource en eau. Je pense, mais ce propos pareil n'est qu'un élément de BR, l'eau sera l'or noir de demain. Parce que si on ne fait pas gaffe, on va avoir gros soucis. Donc on a dit, il faut faire attention, c'est pas le tout de se développer, mais il faut être en lien avec le changement climatique. Il faut protéger les périmètres de captage des eaux. Il faut qu'on ait une cohérence du développement du village pour toute la problématique de l'assainissement, mais là vous l'avez en cours. Puis il y a des gros travaux qui sont programmés, mais ça c'est comme, je dis pas de bêtises. Hein. Donc sur cette partie-là, vous avez des identifications techniques à avoir, tout ce qui est récupération d'eau, puis perdue. À un moment donné, dans sa maison, on a des chenaux qui coulent. On peut très bien avoir une cuve de 5 mètres cubes. Ça sert pour arroser le jardin, ça sert pour laver la bagnole. Ça coûte 890 euros. Posé par une entreprise, 1200 balles. Et il y a 5 mètres cubes qui sont stockés. Puis on met un débit de fuite. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout garder. Si on tombe 8, ça explose. Donc on met un petit débit de fuite de 2 litres secondes. Puis on y envoie vers un fossé ou vers un réseau. Mais au moins, c'est de conserver cette eau. Il y a 80 ans en arrière, nos anciens ont acheté une propriété. Le premier point, c'était où était l'eau. Et on faisait quelque chose. C'était l'eau qui guidait l'homme. On a été persuadés, on a eu des techniques intéressantes, mais on s'aperçoit qu'à un moment donné, on en manque. Hein, parce que ben, ça s'appelle, il y a 80 ans derrière, on est peut-être 37 millions en France. On est 68 millions. Dans 10 ans, on est 70 millions. C'est ça dans tous les pays. Donc à un moment donné, il n'y a pas de secret. Hein. On est 7,7 milliards sur le monde. Les gens pas agréables disent qu'il faudrait qu'on soit 6,5 milliards. À 6 milliards 5, on arrive à équilibrer nos ressources en bouffe et en eau. Ça veut dire des guerres. Il y en a un célèbre qui le disait, il s'appelait Raymond Barre. Hein. Il disait, tous les 30 ans, il faut une guerre. On a un équilibre économique, lui, passait pour pas quatre chemins. Hein. Mais bon, à un moment donné, c'est compliqué. Favoriser les infiltrations d'eau non polluée directement à la parcelle. Et ça, c'est une chance. Vous avez quand même du caillou avec le Rhône qui est pas loin. Donc tout ce qui appartient au milieu, retourne au milieu. C'est simple. Et puis conserver des espaces si possible, le moins imperméabilisé là-dessus. Et on a MTDA, donc ça c'est le bureau d'études environnement qui suit les éléments. Tout ce qu'on vous raconte ici, il le granélise et il le met au mode environnementaliste. Donc il suivra et il y aura un dossier aussi environnement qui va être à côté. Les relevés défis énergétiques, c'est favoriser les formes urbaines sobres, favoriser la performance énergétique, c'est-à-dire on dit à un moment donné... Alors, on reste à la réglementation, parce qu'on pourrait dire, la réglementation actuellement, ça s'appelle la RE 2020, avant c'était la RT 2012, maintenant c'est RE 2020, on pourrait dire 40% de mieux que ça. Donc, moi, je suis très prudent en la matière. De toute façon, personne ne vérifie, madame l'instructrice ne va pas me dire le contraire, il n'y a pas un ingénieur fluide dans les systèmes d'instruction des permis. Donc, vous pouvez permettre que vous êtes à 70%, c'est une attestation sur l'honneur d'architecte qui ment comme un arracheur dedans et qui va le dire, sauf que dans le calcul c'est faux et personne ne vérifie. Donc on va mettre la réglementation en vigueur, c'est déjà pas mal, hein, parce que 10 cm d'isolant en RT 2012, 16 en RE 2020 et les baies qui se diminuent, donc c'est déjà bien. Les critères performance énergétique aussi, et puis essayer de trouver des éléments de disposition d'énergie renouvelable. Donc c'est du panneau solaire, ça peut être deux points. Donc on en discutera avec le groupe de travail et le règlement. Est-ce qu'on les met en toiture? Est-ce qu'on les autorise en façade? Etc, etc. Mais il faudra faire des propositions. Et l'autre point, le dernier, c'est préserver les qualités environnementales du paysage, identifier les sites à fort enjeu. Vous avez du Natura 2000, c'est au sud, avec le parc, parce que vous avez aussi de l'autre côté, vous avez du lien. Il y a un petit peu de monde, il y a les pelouses, il y a les milieux alluviaux, il y a la partie de l'île de Miribel-Jonage. Vous avez des NIEF de type 1 et 2, c'est des zones naturelles d'intérêt environnemental, faunistique et floristique, avec ça, ça me fait une belle jambe. Vous avez le bassin de Miribel, et puis vous avez tout le fleuve du Rhône, les Launes et les Brotteaux que vous avez tout le long, et vous en avez sur votre commune. Reconnaître les identités de paysages importantes, les zones humides, vous en avez un petit peu, préserver les rives, on l'a dit tout à l'heure, les boisements, les continuités écologiques, vous en avez. Donc là, il y a des points qui sont donnés, mais ça ne met pas en cause de la partie développement, et favoriser la replantation des bocagères sur ces parties-là. Pas favoriser tout patrimoine local, c'est l'église, c'est le pigeonnier, c'est toutes les formes architecturales qu'on a, et des choses qui font le caractère des anciens, c'est-à-dire ce qui s'est passé peut-être depuis deux siècles, qui sont intéressants à valoriser et à reprendre. Si hypothèse un gars dans sa propriété a un four, on ne lui dit pas que c'est sous verre, on lui dit simplement vous construisez, mais faites gaffe, vous le conservez, puis ça vaut peut-être le coup. Il y a Bressol, ils en ont 11, on a fait le PLU, il y a une fois par an, tout le monde ouvre, et puis on va bouffer la galette. Moi j'y vais chaque fois, je suis gourmand. Mais c'est vachement sympa. Et c'est, architecturalement, c'est vachement bien. Et on a une carte de synthèse qui nous dit tout ça, qui nous dit globalement, cette magnifique verte, c'est tous les corridors écologiques. Ça, ils ont été reconnus par la région et par l'État. Ça ne vient pas gêner l'ensemble des points. Il y a tout ce qui est en mer ici, c'est valoriser l'environnement paysager et agricole. La tâche urbaine, c'est là-dedans qu'on va se développer. On va apporter un développement et une réflexion plus forte sur ces parties-là. On va réfléchir sur ces équipements publics, et vous ne nous avez pas attendu, c'est en train de se faire. On va réfléchir aussi sur la partie qui est là avec la balade urbaine le long de ces points-là. Et il faut qu'on se pose une question de fond, qui est la production énergétique. Puisque, madame la sous-préfète, vous a glissé gentiment une obligation depuis le 1er juillet.
On l'a fait
un peu quand même. Oui, j'ai eu des échos. Oui. J'aurais bien aimé passer une réunion. Oui. Oh là, ça m'aurait plu. Et vous dit, avant le 31 décembre, vous avez obligation, les communes, de donner des zones de production énergétique. Vous ne l'avez pas entendu. Il y a un point, donc l'étang pêche qui est ici, et là, il y a une société qui a étudié le point, il y aurait en gros une capacité de 5,78 hectares. Je dis en gros parce que ça peut être 3, c'est maximum, qui se mettrait en place sur cette partie-là. Pourquoi ? Parce que c'est des anciens sites de carrière, ce n'est pas inintéressant, c'est des sites par définition dans la loi l'artificialisation, qui sont déjà artificialisés, parce qu'on a fait un prélèvement. Donc dans le calcul de l'État, c'est déjà pris. C'est pas en supplément. Et là, ça pourrait être intéressant. Et à côté, c'est pas que j'en vois pas d'autres, mais soit on peut avoir une démarche qui est un petit peu dure, de dire, dans la zone rouge qui est ici, de toute façon, on pourra pas y faire de bâtiment agricole, on peut y mettre que des terrains, et que de la culture, ou autre chose. Là, c'est l'architecte qui est spécialisé là-dedans, qui fait beaucoup d'énergie, qui a un volet de BR énergie, et qui fait 300 permis de construire à peu près par an là-dessus. Rien n'empêche de faire de l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire vous mettez des panneaux à 3,50 m de haut, vous mettez des moutons dessous, vous laissez des zones de 12 mètres de bande pour que les tracteurs puissent passer, vous avez une gestion pastorale en enlevant des clôtures, en mettant, ils ont mangé d'un côté, on les met de l'autre côté. Les moutons sont comme nous, ils adorent l'ombre, ils se mettent sous les panneaux, ils ne sont pas plus couillons que les autres, ils se mettent dessous, et on bouge les éléments. On va en faire une, on est en train d'étudier sur Balance 77 hectares d'un ancien carrier sur cette partie-là, avec un monde agricole. L'agriculteur a 200 moutons, il va mettre, puis on va faire une gestion pastorale. Donc, est-ce que, étant donné qu'on est en rouge, même si l'eau monte, on n'est pas couillon, les poteaux, ils font un mètre de plus, puis terminé, puis l'eau divague dessous. Vous pourriez très bien dire, madame la préfète, oulala, maintenant des vertus, on a ici, on a une zone rouge qui est là, qui est plein sud, pourquoi pas? Ça ne gêne pas, parce qu'à terme, on disait, l'idée, c'est de faire une protection agricole ici, pour pas qu'il y ait de ferme, mais qu'on ait de la culture. On peut avoir de la culture et de l'agro-photovoltaïque sur cette partie-là. Puis on peut avoir un autre élément, c'est de dire, on met sur les toits une zone d'activité. Alors là, c'est très rigolo, parce que l'État vous dit, oui, c'est vachement bien. Oui, sauf qu'on n'a pas demandé aux propriétaires si c'est d'accord. Mais on a un plan. Mais attendez, le monsieur, il n'a peut-être pas envie. Puis deux, je vous rappelle qu'un panneau solaire, ça fait 16 kilos. Et quand vous le mettez sur les structures, ça fait ça. Donc il y en a qui sont calculés pour, puis il y en a qui ne le sont pas. Moi, je viens de le faire pour un palais des sports qu'on a fait en réhabilitation. Bon, il coûtait 1,7 million, ça ne coûtait que 4 millions. Parce qu'on a démonté toutes les structures, parce que pour mettre les panneaux solaires, il manquait 18 kilos. Donc c'était calculé à l'époque en 72, à la limite du kilotage, à 1 kilogramme. On ne peut pas. Donc on pourrait mettre ça, et on a obligation de le mettre dans le PADD. Donc soit on se dit, on le met ici, on est tous ok, on envisage peut-être là, puis on le met ici, mais là, moi je trouve qu'on est un petit peu dur, parce qu'on n'a pas demandé si les gars sont ok. Alors, la loi là-dessus, elle ne dit pas, c'est pas savoir s'ils sont ok, c'est envisager des secteurs. Hop, le préfet, sous-préfet, remonte chez son chef. Oula, moi j'ai bien travaillé, c'est ma circonscription. Je vous ai trouvé 300 hectares. Oh, bah c'est bien, ça vous fait 10 points de plus pour l'avancement, et on part. Je leur ai dit il n'y a pas longtemps lors d'une réunion, parce que c'est vrai, et je le pense, mais c'est vrai en plus. Et je trouve que c'est quand même fort de café. 1er juillet, 31 août, quand une collectivité demande quelque chose à un sous-préfet, on ne vous a pas rendu. On ne vous a pas répondu, ça fait un an. Oh, bah excusez-nous. Je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures. Enfin, je suis très provoque, mais je le fais exprès. Mais je trouve que c'est un petit peu dur. Par contre, en étant clair, il faut que dans le PADD, on mette une zone. Donc, soit on se dit, pour l'instant, on reste là-dessus. Soit on se dit, bah, dans le débat d'aujourd'hui, c'est de dire simplement, bah oui, peut-être on peut envisager ici, puis après on verra comment on l'écrit. Mais autrement, je ne vois pas où. Alors, on pourrait dire une autre chose, c'est, oui, mais ça, on le sait dans le règlement. On va dire que sur les toits, c'est autorisé. Mais autrement, bah, vous leur dites, bon, j'ai une super zone de 70 hectares qui est ici, madame la préfète, et le sous-préfète, et puis on est les rois du monde. Mais c'est incohérent. Ce qu'il faut, c'est trouver, alors vous pouvez dire peut-être à côté, bah, c'est ici, c'est oui sur les bâtiments communaux, si on peut, s'ils le permettent, parce que bah, vu l'orientation comme vous êtes, le sud étant là-bas, c'est pas mal aussi, il y a la possibilité, etc., etc. Mais il faut décliner. Mais je trouve que c'est l'utopie. Parce qu'on ne prend pas en compte les problèmes de structure, de coûts, etc.
Le seul bâtiment communal qu'on trouvait, c'était celui-ci, sauf que le toit, c'est même pas la peine de penser.
Voilà, je m'en excuse, j'ai été bavard, mais c'était important qu'on vous présente l'ensemble de ces points, qui est la structure du PADD, parce que c'est important. Et c'est ce point, une fois que, si les élus disent banco, pourquoi pas, ben on mettra sur ciel statué qui sera mérite. Et c'est ce qu'on présentera le 13 octobre, comme on l'a dit tout à l'heure, à la population, sur cette partie-là. Je prendrai pas tout à fait les mêmes termes, mais presque, pour expliquer les choses. Parce que je crois qu'à un moment donné, j'ai pas parlé de droit et de juridique, parce que c'est une boîte à encre, puis ça, c'est son boulot. Il faut être pragmatique, simple, et dire, ben voilà, le grand enjeu de la commune, c'est de dire, faire du qualitatif, construire pour construire. Ben, c'est pas ce que vous souhaitez, en tout cas, c'est pas ce que je vous dis ici, c'est le résultat de toutes nos réunions du groupe de travail. C'est pas Debert qui est venu puis qui a dit on fait ça, non, c'est pas vrai. C'est le résultat de l'étude de cadrage, c'est le résultat de la qualité à proximité, puis dire ben oui, il faut continuer à se développer, mais pas sous n'importe quelle condition.
Merci beaucoup, en tout cas, je pense que ça a été pas long du tout, parce que franchement, j'ai pas vu le temps passer, et c'était très intéressant. Et je pense que c'était beaucoup plus clair pour tout le monde. Alors, il y a beaucoup d'élus ici qui ont passé déjà du temps dans les réunions, pas tous, mais je pense que pour ceux qui pouvaient pas assister aux réunions, bah, ça a été certainement peut-être plus clair pour vous. Alors, si vous avez des questions, bah, c'est le moment. Voilà, je sais pas. Pas spécialement. Si vous n'avez pas trop de questions, c'est que vous avez été clair. Hein. Oui, on est plusieurs à avoir participé.
Aussi. Oui, ben c'est important. Oui.
Ouais. Il y avait un point sur intégrer le risque d'inondation dans le cadre du développement du village. Alors, intégrer le risque, c'est une chose, mais la protection, les luttes contre le risque d'inondation.
Oui. Alors ça, bah, là,
c'est un petit peu différent. Quand
complètement.
Même, du fait d'être passif et.
Oui. Mais ça, je partage complètement votre point. C'est-à-dire, le PNU, il va prendre le PPRI, il va l'appliquer, et en fait, il dit, bah, en fait, c'est qu'une, il n'applique que les conséquences qu'il y a eu. Par contre, protéger ça, il n'y a aucun outil dans le PNU qui existe. C'est pas du code de l'urbanisme. Alors vous allez dire, il ne touche pas du tout. C'est pas du code de l'urbanisme, c'est le code de l'environnement. Et un PLU, il ne traite que du code de l'urbanisme. Alors, il s'en est vachement content. Je n'ai pas donné de réponse. Parce que c'est l'obligation de l'État de protéger ses populations. Mais ça, ils ont tendance un peu à l'oublier. Alors, ils vous disent, oh là là, mais oui, on va faire un PPRI. Oui, mais vous êtes gentil. Mais si on l'a fait, c'est qu'il y a peut-être 90 et puis d'autres cas où ça a été inondé. Qu'est-ce que vous allez faire pour éviter 90? Donc là, il y a un gros traitement de fond sur cette partie-là. Et malheureusement, ce n'est pas qu'à l'échelle, on le voit sur la carte, hein. Ce n'est pas que le point qui est ici. C'est, on part presque de Bellegarde, puis on vient jusqu'au bout et dire comment on stabilise tous ces points, qu'est-ce qu'on fait en amont à des endroits, qu'est-ce qu'on fait en termes de berges, etc. Mais ça, ça ne rentre pas dans le PLU.
Okay. Mais si le PLU ne prévoit pas d'espace de protection qui serait traité dans le futur par d'autres instances, il y a peu de chances que celle-ci puisse un jour trouver leur place. Dans l'exemple de, je sais pas, de rehaussement de berge, par exemple. Oui. Pas un spécialiste de la question, mais si on ne dit pas que dans cet espace-là, quand l'État se bougera, quand l'État aura une vision assez claire des moyens de protection, bah, c'est là que ça se passera, c'est difficile après de les accueillir, quoi.
Oui, non, mais je comprends tout à fait. Et le point, effectivement, c'est en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que on se dit qu'à un moment donné, il y a des secteurs rouges où on n'y va pas. On sait que l'urbanisation... si tu peux revenir au plan. Oui, tu y as fait. Voilà. On s'aperçoit que tout ça est en rouge ici. Donc, conclusion, l'État en réflexe amère, c'est de dire, de toute façon, on vous interdit ici. Oui, mais on interdit, mais on ne traite pas la cause.
Exactement.
C'est comme si vous êtes malade, oui, j'ai fait une sortie de bouton. C'est bien, on vous donne un cacheton et puis les boutons rentrent. Et c'est pourquoi ils sont venus. Et là, on ne traite pas la cause. Et en matière d'urbanisme, on ne traite jamais la cause par le PLU. C'est que le code de l'environnement qui le traite. Et c'est que les projets d'intérêt étatique qui, à un moment donné, doivent prendre. Et vous avez un organisme qui s'appelle quand même la CNR, Compagnie Nationale du Rhône, qui a repris la concession jusqu'en 1942. Et c'est pas pour rien qu'à un moment donné aussi, il y a un barrage qui s'étudie à l'OIM. On connaît bien ce qu'on vient d'être retenu pour le faire, de bien. Donc, avec eux. Donc, parce que de l'autre côté, Saint-Romain, je peux vous dire que l'Isère, pas d'accord du tout. Sauf que là, réellement, si on ne traite pas ce point qui est ici, en aval, on ne traite pas les protections des populations. Et il faut impérativement le faire. Alors, j'ai entendu des débats de l'État ou autre, j'aimerais le dormir, mais dites-le une bonne fois pour toutes, il ne faut pas être égoïste. Du côté d'une berge et de l'autre, il faut le traiter, parce que tout bas, en bas, c'est eux qui prennent tout. Jusqu'à présent, la gravité, c'est un point haut, point bas. Hein. Donc là, il y a un vrai problème de fond. Donc la CNR a comme mission actuellement, avec la continuité de sa convention jusqu'en 1942, de traiter sur l'ensemble, parce que ça va de loin, hein, ça part de Lille et ça va jusqu'à Marseille, de traiter l'ensemble de ces problématiques. Et on a un peu de peau quand même, parce que le bureau d'études est à Lyon, avec 250 ingénieurs qui bossent toute la journée là-dessus. Donc là, on lance la machine. Pour l'instant, en termes d'image, pour faire comprendre, donc là, c'est du croquis, c'est de la perce et autres, pour dire, voilà l'impact que ça aura, avec leur technicité, parce que moi, je ne sais pas fabriquer un barrage, il y a des ingénieurs pour, ils me donnent leur technique, et nous, on fait l'aménagement paysager et les coutures. De cette partie-là, pour faire prendre conscience aux populations du deux côtés des rives, qu'il faut faire quelque chose. Parce que si on ne fait pas quelque chose, ça va être catastrophique. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, on a des pressions d'eau qui arrivent très très vite, et on a des systèmes où on prend... c'est le cas de Bouglan, hein, l'année passée. Hein. Bouglan a pris 2 mètres d'un seul coup. 36 km de retenue a pris 2 mètres en 4 jours. C'est alerte à Malibu. Ils ont vidé la rivière d'Ain et puis tout le reste, les affluents ont pris. Et on a vu une montée. On voyait, quand on passait au pont de Chazet, on voyait tous les cailloux. En 2 heures, il n'y avait plus les cailloux. Hein, et autres, baignades interdites, etc. Donc à un moment donné, on ne peut pas être égoïste. C'est pas possible sur ce point-là. Mais pour répondre clairement à votre question, le PLU ne fixe pas, parce que dans tous les cas, il nous dit c'est en zone rouge ici, et il nous dit c'est urbanisé là, et bien l'État nous dit vous laissez tel que. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais un petit peu de cimetière des éléphants à terme, parce que tel que c'est fait, il n'y aura plus de possibilités ici. Par contre, le point qui est important, c'est qu'actuellement on a quand même des contraintes, c'est pas parce qu'il pense que là, il y a d'autres contraintes par des remontées de nappes, ce que vous avez l'écoulement, et la remontée de nappes. Et ça, ça serait bien que ça soit traité en amont pour éviter ces phénomènes et que les gens ici vivent tranquillement. C'est-à-dire ceux qui sont dans toutes les zones là, qui sont les bleus, qui sont limites entre les deux, puissent être rassurés. Parce que c'est pas marrant quand vous entendez la sirène. Moi, je l'ai vécu gamin, j'habitais Oyonnax à l'époque. Donc Oyonnax, pour qu'il y ait de l'eau, il y en a 30 mètres de haut à Lyon. Hein. Barrage de Bouglan, alerte. Je peux vous dire, moi j'avais 7 ans, je revois... Les 2 heures, je revois toutes les minutes, quand vous voyez les gens qui sortent, chemise de nuit, machin bidule, il n'y a pas le temps, qui prennent les gamins, qui courent en haut de la Bretouze, affolés, et qui avaient 25 000 habitants qui ont fait ça. Et c'est arrivé, c'est que c'est un rat qui a bouffé les deux connectiques. Donc il a fait faire une masse, il a bouffé, ça allait l'électrocuter, ça fait la masse, sauf ça a déclenché le système. Il n'y avait rien, hein, rien du tout. Et vous dites au fond, ouais, quand il y a une zone inondable, ça fait prendre conscience. Hein. Et je n'avais que 6 ans. Mais je m'en rappellerai toujours. Et il y a des gens ici, ils l'ont vécu, hein, tout ce qui s'est passé. C'est pas marrant du tout. Donc c'est un traitement en amont. Mais ça peut pas être le PLU qui règle ça. Je serais un menteur de vous dire, oh bon, on va mettre un truc, ça va régler. C'est pas vrai. c'est le code de l'environnement, donc c'est l'État qui doit régler ça. Elle a l'obligation, son devoir, c'est de protéger les populations. C'est même pas du devoir du des humains. Hein.
C'est vrai qu'il y a eu des études qui ont été faites, parce que nous, quand on a été élu, il y avait toute une étude qui avait été faite pour faire ce qu'on appelle la digue de Thiel. Et donc ça, c'est une compétence qui appartient à la communauté de communes. Et depuis, on avait redemandé des études, parce que ça nous paraissait quand même surprenant, la première étude qui avait été faite, parce que ça veut dire qu'il y a une digue à Thiel qui passe et vers le Quai des Amours. En fait, le mur arrive à 2 mètres de haut. Après, donc, faire un mur de 2 mètres de haut, c'est pas grave, mais il faut que ça ait une utilité en cas de crue. Et donc, on a rediligenté d'autres études, et après, donc, on fait des crues décennales, 20 nals, 50 nals, 100 nals, etc. Et des bureaux d'études travaillent et font des projections avec des relevés, etc., pour voir en cas de crue 20 nals, 50 nals, etc., combien de maisons ça inonde. Et est-ce qu'il est valable de faire ce mur de 2 mètres de haut que l'on va voir H24 tout le temps pour effectivement combien de maisons inondées? Et ils se sont aperçus en refaisant cette étude que ça ne concernait qu'un tout petit nombre de maisons qui sont protégées par ce mur que nous on verrait tout en temps. Donc ça n'a pas été pris en compte. Mais par contre on fait faire d'autres études parce qu'il y a peut-être certains aménagements qui sont à peine visibles mais qui pourrait faire que, plutôt que de nous fermer la rue de la mairie dans le virage, eh bien en fait l'eau est bien justement là où c'est rouge, sans impacter plus de maisons, mais dans un endroit où ça n'impacte personne en faisant d'autres petits aménagements. Alors, entre merlon et digue, maintenant, il faut faire très attention, parce qu'une digue pour l'État, c'est quelque chose de qui a une existence, un merlon n'en a pas. Donc c'est comme ça. Donc il faut mieux faire des merlons parce que ça va nous protéger, mais pour l'État ça n'existera pas. Mais nous on aura la vraie protection qu'on veut, alors que pour l'État, lui, il ferait la digue de 2 mètres de haut, mais qui ne va pas servir à grand chose. Donc on en est dans ce phasage là, mais c'est vrai que par rapport au PLU de la commune, ça rentre pas dans il n'y a pas de trace de ça.
En tout cas dans le document, parce que au démarrage des études, il y a un document qui la donne, c'est ce qu'on appelle le pacte porté à connaissance. Et là-dedans, ils ont donné que ce point-là. Ça n'empêche pas que à l'arrêt projet, quand on aura terminé la convocation, vous allez transmettre par délibération l'ensemble des services. Peut-être que la Comcop ou d'autres services d'État vont dire on a pris en compte parce que les études sont suffisamment avancées, etc. Et on vous demande de mettre en prescription ce document. Mais ça, c'est comme Saint-Thomas, tant qu'on l'a pas vu, on peut pas dire.
Enfin bon, depuis le début, on dit l'objectif, c'est pas de construire pour construire. L'objectif, c'est que à chaque fois que les personnes qui vont faire les déclarations d'achèvement de travaux, elles aillent voir des gens qui soient bien intégrés dans le village, qui s'y sentent bien et où on aurait envie d'habiter. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits comme typiquement ce qui a été montré chemin du Besson, où c'est vrai que ça peut choquer et qu'on l'aurait pas, que le PLU justement, il doit faire un peu de la dentelle, c'est-à-dire que là où il y a des grands axes de circulation, eh bien on peut accepter plus que dans des petits axes où c'est pas possible, où on sait que le service de secours pour venir, eh bien, ça va être très compliqué. Enfin, il faut qu'on ait envie d'habiter, quoi. Si on n'a pas envie d'habiter, ça sert à rien de donner l'autorisation de construire. Je pense qu'il faut être clair avec ça. Et puis, alors c'est vrai que c'est facile à dire, mais que comme tout à l'heure dans le quart d'heure citoyen où monsieur un tel dit mais moi ma parcelle je voudrais qu'elle soit constructible, alors je sais pas qui, j'ai pas vu, mais si ça se trouve sa parcelle elle ne sera pas, quoi. Et je suppose que ce monsieur-là, il ne sera pas content. Mais après, il faut expliquer le pourquoi du comment. Et puis, après, encore une fois, c'est aussi l'intérêt général qui prime. Et l'objectif, c'est quand même qu'on se sente bien dans le village, quoi.
Et on est réellement à un moment de changement sociétal profond. Parce qu'on a plutôt un système avec des propriétaires terriens sur ces parties-là, mais qui était très ancré avec l'histoire. Et là, on a une modification et des mélanges de masses de populations qui n'ont pas la racine qui est ici. Et à un moment donné, pour ces jeunes populations moins jeunes et qui arrivent là, pour eux, l'histoire du lieu, ben, j'ai ma maison, je construis, terminé. Par contre, pour les anciens qui sont là, voir partir des terres qui ont peut-être pendant 20 ou 30 ans été classées constructibles, ils disent, c'est gentil, tout le charme urbanistique, moi, ma terre, elle est comme... Ben non, non. Et ça, c'est dur à entendre. Mais c'est comme ça.
J'ai une question également. Au niveau du renouvellement des énergies, d'après ce que je crois savoir, on donne des durées de vie de 20 ans et on dit que le traitement ensuite de ces équipements risquera d'être coûteux.
C'est pas du PLU.
Alors, oui.
Non. Moi, j'ai affaire du PLU,
c'est
déjà bien.
Du PLU.
Moi, après, je m'inquiète pas des industriels et leur mécanisme. Moi, je ne parle que de droit et du code de l'urbanisme et de la
mécanisme. Oui, mais ma question, c'était surtout lorsque les communes investissent.
C'est pas du PLU. C'est pas du PLU. Là, vous parlez de finances.
Oui.
C'est pas que j'ai pas envie de vous répondre,
mais
je peux pas vous dire. C'est pas du PLU.
Oui, c'est vrai.
C'est des stratégies financières de la collectivité avec différents systèmes, mais ça n'a pas d'impact direct sur le seul impact, par contre, vous avez raison, c'est la partie de localisation, comme vous demande l'État, de localiser des zones pour des énergies. Ça, oui, parce qu'à un moment donné, dans le zonage, on va écrire des zones NER, zones naturelles énergétiques, qui permettront d'accepter ces points. Autrement, on reste. C'est pas nous. D'autres questions ?
Non. Vous avez été clair ?
Je sais pas,
beaucoup.
Mais.
Si, si, merci.
On vous souhaite une bonne soirée.
Ouais, vous aussi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci.
À très bientôt.
À bientôt.
Et bien, au 13, tout à fait.
Au 13.
Oui, pour la réunion publique. La présentation sur le dessus, puis comme ça vous permet de.
Je pense qu'on a bien pris la mesure de tous les enjeux de tout ça. On va peut-être remettre la note de synthèse. Sinon, tu vas la retrouver. Le point suivant, c'est la rétrocession des parcelles. Donc là, il n'y a pas de vote, hein. C'était bien un débat et donc c'est pas un vote. Délibération par contre suivante, c'est la rétrocession des parcelles au profit de 1 habitat. Donc je vous rappelle, l'EPF, établissement public foncier de l'Ain, a acquis à la demande de la commune des parcelles qui sont situées au 388 rue du Canal, pour une surface totale de 4419 m2, avec des actes qui ont été pris le 3 février 2015 et le 25 juillet 2022, vous savez que ça a été acheté en deux fois, afin de créer une opération de mixité de logements par le bailleur social qui s'appelle A Habitat, qui s'est positionné pour ce projet, et qui prévoit la construction donc de 6 logements collectifs en rez-de-chaussée plus un étage, et de la page suivante, merci, 8 pavillons individuels ou accolés par le garage en rez-de-chaussée et plus un étage. Donc c'est un habitat qui a déposé un permis de construire et qui l'a obtenu le 1er juin 2023. Et pour pouvoir réaliser cette opération, un habitat doit maintenant acquérir auprès de l'EPF le terrain. Pour ce faire, il faut que la commune soit autorisée à intervenir à l'acte de vente, afin également de percevoir le remboursement des frais de portage que l'on a versés jusque-là, qui s'élève à la somme de 35 852,23 euros. Donc cette délibération, elle a pour but de vous demander de bien vouloir approuver la rétrocession donc, des terrains de l'EPF à un habitat pour le prix de 389 263,90 euros, d'approuver le remboursement par l'EPF des annuités qui ont été déjà versées et qui s'élèvent, donc la somme qu'a versée déjà la commune depuis, est 35 852,23 euros, puisque le portage portait sur des montants d'environ 4 500 euros par an. Et dire que la commune interviendra à l'acte de vente définitif afin de percevoir le remboursement donc, des frais et donner pouvoir au maire, en cas d'empêchement ou de son, à son représentant, pour effectuer toutes les démarches nécessaires et signer tous les documents. Voilà l'objet de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Non ? Tiens, ben je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adoptées. Je vous remercie. Délibération suivante. Babette, je vais te donner la parole. Elle propose une signature d'une convention.
Voilà, avec un sud, bon, tout le monde connaît. L'association club de foot qui s'appelait d'ailleurs avant Un Sud Foot, maintenant c'est Un Sud. Ils sont non seulement association sportive basée sur la CMP, mais organisme de formation avec un système d'apprentissage. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois ça permet à des apprentis de s'insérer sur le milieu scolaire et proposer l'activité, et à la fois c'est très peu coûteux pour nous, et c'est du personnel supplémentaire qui est souvent motivé par les activités sportives. Donc c'était une proposition qui avait été faite par la CMP. Monsieur Benboula, notre nouveau directeur scolaire, était très intéressé par cette possibilité-là. Donc on a reçu la semaine dernière deux jeunes, dont un qui est illois.
C'est ça.
L'autre qui est sur le qui va donc... Ils vont donc venir les jeudis et vendredis proposer des activités. Ils sont en alternance et le lundi et mardi, ils sont sur leur formation. On a rencontré aussi leur coordinateur, j'ai que son prénom, Jean-Michel, je ne sais plus comment, mais enfin bon, qui est coordinateur sur un sud. C'est bien parce qu'il y a vraiment une prise en charge, un relais voilà, autour de leur formation. Et Céline Bendoula qui va aussi les chapeauter sur place à l'école. Donc, du coup, c'est bon, voilà, ça, le coût pour TIL, c'est 40,36 euros hebdomadaire, et c'est quand même pour deux jours par semaine pour deux jeunes, donc c'est quand même. Voilà.
Ça va nous coûter 40,36 euros pour accueillir donc, ces deux jeunes durant le temps périscolaire, le jeudi et le vendredi, pour pouvoir proposer proposer du sport.
Voilà, mais pas forcément que du foot d'ailleurs, hein, puisque dans l'école, on peut être orienté d'autres choses.
Oui, de formation. C'est un club sportif, donc voilà. Il n'y a pas que du foot, et donc c'est les jeunes qui vont venir proposer aux enfants pendant le temps périsco de faire du sport.
En fait, c'est les enfants qui décideront d'aller... d'y aller.
Ah non, c'est les jeunes qui viennent. Les deux non, jeunes,
oui. Les deux jeunes viennent à l'école. Les enfants qui sont à l'école, qui s'attendent les jeunes.
Ouais.
Oui. Les jeunes, oui. En fait, c'est eux qui décident s'ils veulent y aller ou pas.
C'est ça. Il y a proposer différentes choses qui sont proposées au temps périscolaire à l'école. Tu peux rester, tu peux dessiner, tu peux faire du dessin. Enfin, il y a différentes activités. Il y a même l'activité tricot.
Tricot.
Ça marche pas mal. et donc, ceux qui veulent, bah, souvent, il y a quand même un volume d'enfants qui jouent. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a installé un panneau de basket, etc. Ouais. Et qu'on a acheté aussi un petit peu de matériel. Et donc, ces deux jeunes sont là pour encadrer. Alors, peut-être faire des tournois, peut-être faire. Mais proposer pas que du foot, bien évidemment.
Oui, des sports co, des jeux collectifs, voilà, avec du matériel.
Ce sera pas pour les petits maternels. Ce sera juste pour les primaires.
C'est que les primaires.
Oui, c'est plus que tout. Et puis on va avoir après une intervenante côté côté maternelle, une animatrice qui va arriver au 1er octobre. Donc, elles peuvent proposer des activités variées, parce que souvent ils sont dehors, ils font aussi des jeux, voilà. Mais là, ça sera côté primaire. Hein. Ouais. Voilà. Je pense que...
Vous avez d'autres questions ? Non ? Alors, je vais soumettre cette déclaration à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Les abstentions ? Adopté, bien, ils vont pouvoir commencer la semaine prochaine. C'est très bien. La délibération suivante concerne une décision modificative concernant notre budget 2023 pour une insuffisance de crédit. C'est pour une somme de 1 000 euros. Alors, Sandra, tu peux peut-être nous expliquer.
En fait, on rembourse un emprunt de manière trimestrielle. Donc, tous les trimestres, on émet un mandat concernant le remboursement d'emprunt. Et parmi les deux articles, donc, on rembourse et le capital et les intérêts. Et en fait, à la ligne des intérêts au 66-111, on n'avait pas mis assez de crédits. Donc on va aller prendre sur une ligne où il y a des crédits disponibles dont on ne se sert pas. Donc en l'occurrence, c'est dans le chapitre 11, caractère à charge générale. Et c'est le compte 618 qui est alimenté où il y a une somme assez importante dont on ne s'est pas servi depuis le début de l'année. Donc en fait, on prend de l'argent disponible sur le compte 618 pour aller le mettre sur l'article concernant les intérêts et pouvoir finir de passer les écritures de fin d'année concernant les emprunts. Voilà, tout simplement.
C'est un jeu d'écriture.
Voilà, on ne rajoute pas d'argent, c'est, on prend vraiment ce qu'on appelle un virement de crédit, on prend une somme disponible sur un autre compte pour pouvoir passer des écritures adéquates. Ça ne change en rien le budget qui a été voté au mois de mars.
Des questions ? Non, bien, je propose cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Les abstentions adoptées à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante concerne la bibliothèque départementale et la convention de partenariat. Alors, la grille tarifaire, on l'avait déjà votée, parce que vous savez que c'est un tarif maintenant unique pour toute la communauté de communes. Je crois que c'est 15 euros par an pour adultes. Par contre, le département nous demande de distinguer également, pour que ce soit tout complet, il faut qu'on valide l'évolution tarifaire pour la gratuité qui doit être appliquée aux catégories suivantes, moins de 18 ans, étudiants, personnes en recherche d'emploi, bénéficiaires de minima sociaux, avec tous toutes les allocations, adultes handicapés, solidarité spécifique, etc., etc., professionnels de la petite enfance, les enseignants et éducateurs, ainsi que tout professionnel, association ou service de collectivité favorisant l'accès d'un public à la lecture ou à la culture. Voilà, en fait, on avait juste nous voté le tarif unique pour toutes les bibliothèques, mais on devait préciser, le département nous a demandé de rajouter l'évolution concernant les gratuités, ce qui n'était pas inscrit dans le règlement. Donc, c'est ce qui vous est proposé aujourd'hui, que de vouloir bien accepter l'évolution tarifaire telle que présentée ci-dessus.
C'est presque plus rapide de dire ceux qui doivent payer.
Alors, c'est les adultes.
Ça, c'est l'objectif.
C'est l'exception.
Voilà. C'est l'objectif que la culture soit... Voilà, c'est écrit.
Que l'objectif, oui, c'est que la culture soit le plus accessible, surtout aux plus jeunes et aux populations, on va dire, défavorisées. Mais bon, la bibliothèque, je crois que le tarif, c'est 15 euros par an. Hein. C'est quand même c'est pas une somme quand même qui est très importante, et que maintenant, avec le fait qu'on est mutualisé au niveau de la communauté de communes, on a accès à un volume, enfin à une variété de livres, CD, enfin et vidéos qui est vraiment très très importante, hein, puisqu'on peut même aller les chercher dans d'autres bibliothèques, enfin aller voir ce qui se passe dans les autres bibliothèques avec sa carte, on peut se promener dans toutes les bibliothèques de la communauté de communes et les réserver.
réserver. Il y a un catalogue aussi sur Internet. Donc, c'est vrai que faire partie de ce réseau, c'était un vrai plus.
Je ne sais pas si la population a bien compris ça. Je pense qu'au niveau communication, la communauté de communes...
Il y a des choses à faire.
Il y a des choses à faire. Enfin, je parle de, par exemple, mon père, il prend que des livres là, il ne sait pas qu'il peut en demander ailleurs. Oui, je pense qu'au niveau communication, il y a un travail à faire.
Il y a eu des choses pour les poulains. C'était bien, ils ont ouvert toutes les bibliothèques, on pouvait aller dans toutes les bibliothèques.
Bah, mais il faut que les gens...
après, maintenant, quand il vient à la bibliothèque, c'est peut-être aussi aux personnes de la bibliothèque de venir. Mais il ne va pas envoyer un courrier ou faire des choses comme ça pour les gens qui sont déjà adhérents. Si les personnes de la bibliothèque
dans le fil de tir, des fois on peut faire des fois
un encart. Vous avez fait un encart sur la bibliothèque.
Ouais. Ceci dit, il y a un groupe de travail.
C'est super.
Il y a un groupe de travail au niveau de la CCMP, comme pour l'AMD, qui va se créer bientôt. Demander si je voulais bien quand même. Et justement, dans le volet culturel, pour voir tout ce qui pourrait être amélioré, Aurore Berger, elle est très en demande d'améliorer, de travailler vraiment un petit peu sur le détail aussi. Parce que je pense que c'est des choses qu'on peut-être dû remonter aussi. C'est vrai que c'est quand même récent. Il faut continuer à communiquer par rapport à aux aménagements.
C'est clair. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Je vais donc soumettre cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté, je vous remercie. Et la dernière délibération concerne la Cegapal avec le rapport de gestion 2022 de la Cegapal. Alors la Cegapal, c'est une société d'économie mixte qui a été créée en 1979. C'est elle qui gère et qui anime le grand parc de l'hébergeonnage. Cette société, elle a au-dessus d'elle un syndicat qui s'appelle le CIMALIM, qui est le syndicat qui est propriétaire du grand parc. La Cegapal a un capital qui est réparti entre 20 collectivités actionnaires, dont la commune de Tille. La gouvernance, il y a un président qui est Issam Benzegiba, qui est un élu de la commune de Mézieux. Directeur général, c'est Monsieur Guillaume Maury. Il y a 4 vice-présidents qui sont Madame Nathalie Descour, qui est une élue de Miribel, qui est en charge de la communication et des relations publiques. Moi-même qui suis en charge de la cohésion et la cohésion et de la cohérence des territoires, donc je vais rencontrer tous les actionnaires. Hein, je suis déjà allée voir Vaux-en-Velin, qu'est-ce qu'on a fait Vaux-en-Velin, on a fait Villeurbanne, on a fait Genasse, on a fait Jonge, on a fait Jonage, enfin tous les actionnaires en fait, parce que la Cegapal peut travailler pour tous ses actionnaires pour faire tout type de travaux, hein, puisque la Cegapal c'est 65 corps de métiers différents. Qui est à même de faire des. Qui ne peut travailler que pour ses actionnaires. C'est là le principe de cette société, qui ne peut travailler que pour ses actionnaires. Donc, on vous détaille dans le rapport qu'il y a une assemblée générale, un conseil d'administration, une assemblée spéciale, dont Vincent fait également partie, un comité d'orientation et de suivi. Ah, j'ai pas fini dans les présidents, puisqu'on est 4 vice-présidents, pardon. Il y a aussi M. Jean-Claude Rey, qui est chargé de la transition écologique, et Mme Anne Reveran, qui est en charge de la conciliation des usages, qui sont 2 élus de la ville de Villeurbanne. Donc on travaille très souvent tous ensemble. La Cegapal, c'est 69 salariés, jusqu'à 110 personnes en haute saison, hein, réparties en 4 services. La gestion des espaces naturels, les infrastructures et patrimoine, le développement et l'exploitation. Alors évidemment, la Cegapal, comme je le dis, elle travaille pour le Grand Parc et elle entretient les 2200 hectares du Grand Parc, mais pas que. Elle travaille également pour la métropole de Lyon, à savoir... on entretient les espaces de l'accès sud du parc OL, le Groupama Stadium. On entretient également le parc technologique de Saint-Priest. Je ne sais pas si vous êtes déjà promené dans ce... Enfin, promené, c'est un parc technologique, c'est une zone industrielle, on va dire, mais c'est un vrai lieu de promenade. C'est-à-dire que quand on s'y promène, on ne sait pas vraiment qu'il y a des entreprises derrière, et pourtant c'est le cas. Et il y a un hôtel qui était un hôtel Mercure avant, qui est devenu un hôtel Hilton. Et cet hôtel a un restaurant avec un chef qui aime bien les produits locaux. Et il y a donc tout un espace qui est cultivé par la Cégapal avec des légumes, et notamment des légumes anciens et de saison, bien évidemment, forcément. Et que le chef vient se servir de ces légumes pour cuisiner dans le restaurant, et que tout le surplus de légumes qui sont cultivés et ben, est amené à une épicerie solidaire à Saint-Priest. Voilà, puisque le parc technologique est sur la commune de Saint-Priest. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bien évidemment, la Cégapal gère tout ce qui est la ressource en eau, hein, puisque le grand parc, ça, les métropolitains ne savent malheureusement pas assez, c'est aussi un problème de communication, je pense. Quant à Villeurbanne ou à Bron ou ailleurs, on ouvre le robinet, l'eau, elle vient du grand parc de Méribel. Hein. C'est la 90% de la ressource en eau de la métropole de Lyon provient du grand parc. Donc c'est un travail important pour la Cégapal que de pouvoir entretenir et maintenir eh bien, les usages entre tous les dizaines de milliers de visiteurs. Hein. Cette année, on a eu des week-ends en juin à 65 000 visiteurs dans le week-end avec les pics de chaleur qu'on a pu connaître. En août, finalement, il y a quand même moins de gens qui viennent parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en vacances. Et c'est vrai que juin, ça représente quand même des mai, juin, quand il fait beau, ça représente des pics de fréquentation qui sont très importantes. Et c'est pour ça qu'il y a plus d'employés à Cégapal à ce moment-là, justement parce qu'il faut préserver tous les usages et la ressource en eau, et puis accueillir les gens qui veulent faire de la voile, qui veulent faire du paddle, qui jouent au golf, etc., etc. Je dis également, la Cégapal fait aussi des interventions auprès de la 3CM, puisque la 3CM, communauté commune de Montluel, est aussi actionnaire, donc elle fait des travaux pour la 3CM. Pour la commune de Mézieux, donc pour la brigade équestre, et y compris la brigade équestre pour la ville de Vaux-en-Velin, et pour la commune de Mézieux également, avec l'entretien des espaces verts. Voilà, donc en chiffres, est-ce que j'ai les chiffres? Le total du bilan de l'année 2022 était de 3 661 000 euros, avec un résultat net qui était en perte de moins 173 000 euros. Alors, les recettes sont aussi fluctuantes, c'est en fonction de la météo, hein, puisqu'il y a la partie qu'on appelle l'atoll, donc c'est l'endroit qui est payant et sur lequel vous avez une plage, de la restauration, des activités diverses et variées, et que, eh bien, évidemment, les recettes varient en fonction de la météo. S'il fait beau, il y a beaucoup de monde, et s'il ne fait pas beau, eh bien, forcément, il y a moins de monde et moins de recettes. Et donc c'est pour ça, puisque 2022, l'été, surtout la partie juillet, avait été moins attractive dans les recettes qui étaient liées à la fréquentation de l'atoll. Voilà ce que je peux vous dire sur le rapport Cégapal 2022. Si vous avez des questions sur cette société.
Bon, qu'est-ce que tu en penses?
Ce que j'en pense.
Oui, tu avais trouvé que il y avait du bon boulot.
Alors on essaye de bien travailler. Tous les usages sont compliqués parce qu'il y a aussi ce dont j'ai pas parlé, c'est tout le volet social, et il y a un très gros volet social avec l'ILOS où on accueille les écoles par rapport au développement durable et environnemental. L'ILOS, c'est quelque chose qui rapporte pas d'argent, au contraire, qui en coûte. Mais malgré tout, il y a tout un volet pour expliquer aux enfants et à toutes les écoles, donc non seulement les écoles, la communauté de communes, mais de toute la métropole qui y viennent, pour justement, eh bien, il y a des expositions permanentes qui expliquent la biodiversité, qui expliquent le respect de la nature, etc. Il y a un gros volet qui est géré par la Cégapal au niveau du traitement des déchets. Accueillir 60 000, 65 000 personnes en un week-end, ça fait beaucoup de déchets. essais. Il y a eu on a été lauréat d'une démarche qui a été faite pour justement supprimer les poubelles, parce que on s'est aperçu à un moment qu'il allait y avoir plus de poubelles que d'arbres. Et que c'était qu'il fallait plus faire comme ça. Donc maintenant, il y a beaucoup d'endroits où il y a des points d'apport volontaires, mais pour que les gens viennent apporter volontairement, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui soient embauchées pour expliquer aux gens qu'il faut que leurs déchets, ils les laissent pas sur la plage, mais qu'ils les emmènent, qu'ils les trient, etc. On essaye aussi d'avoir des ambassadeurs qui puissent expliquer aux gens que s'ils viennent avec leur pique-nique, ben, ils peuvent ramener leurs déchets chez eux, parce qu'ils en ramènent moins, mais ils ramènent quand même chez eux. Ça, c'est aussi des choses qui sont pas valorisables, parce qu'on ne peut pas les faire payer, mais qui coûtent, mais qui malgré tout fait que tous les usages se marient. Je dirais que c'est le deuxième parc urbain d'Europe. Que c'est un territoire qui, au départ, n'a pas d'habitants, et en fait, il y a des milliards d'habitants, puisque la biodiversité qui est présente au Grand Parc, c'est inestimable. Et en fait, on préserve ça. On arrive à préserver et avoir une qualité d'eau. Alors, encore une fois, les métropolitains ne le savent pas, mais ils ont une qualité d'eau qui est excellente. C'est aussi parce que nous, ici, on fait attention. On est nature à 2000 et qu'on préserve la ressource en eau ici, qu'on ne fait pas n'importe quoi, parce que c'est cette eau qui est 90% de la ressource en eau potable de la métropole. C'est le Grand Parc de Miribel-Genage. Donc, c'est pareil, il y a des usages dans le sens où on s'est aperçu qu'au fil du temps, les niveaux d'eau baissent. Donc il y a des pompages qui se sont déplacés. Il y a aussi toute une activité de faucardage, parce qu'il y a des algues qui poussent et qu'il faut couper ces algues parce qu'elles peuvent entraver le bon fonctionnement justement des puits de captage. Donc il y a toute cette protection aussi également des puits de captage. Parce que tu me poses des questions sur le Grand Parc, je pense que je peux t'en parler pendant des heures, parce que j'y travaille beaucoup. Et c'est vrai que tous ces métiers, il y a 65 employés, mais il y a presque autant de métiers à la Cégapal, parce que ça va, on peut refaire une route, on peut refaire un aménagement, et puis on peut en même temps avoir des ingénieurs qui étudient la biodiversité et le respect d'un site et la préservation des espèces. Il y a aussi des chasseurs dans le Grand Parc, parce qu'il faut de la chasse, parce que c'est 2200 hectares et qu'il y a toute une faune, et heureusement qu'il y a cette faune, et il faut marier tout ça. Il y a aussi plein d'événements, il y a le Woodstower, il y a des courses, il y a plein d'animations, et surtout toute une démarche où il y a des gamins qui viennent en centre de loisirs à l'atoll. À chaque vacances scolaires, il y a tout un panel d'enfants qui sont accueillis, et notamment beaucoup d'enfants de la métropole qui viennent au centre de loisirs et à qui on peut offrir une offre d'activité terrestre, que ce soit du tir à l'arc, que ce soit de tyrolienne, que ce soit de la voile, que ce soit du paddle, que ce soit plein de choses, à des coûts qui sont hyper intéressants, justement parce qu'il y a cette volonté de pouvoir offrir aux plus défavorisés tout un panel d'activités qu'ils ne feraient jamais ni à Vaux-en-Velin, ni à Bron, enfin, ni à mes yeux, ni ailleurs, quoi. Donc c'est aussi multi-usage, multi-fonction, et je dirais que dans l'ensemble, ça fonctionne quand même pas.
Oui, voilà, c'est parce que nous on va voter, mais en fait on va voter un rapport qu'on connaît pas, donc enfin qu'on n'a pas lu, donc
c'est ça.
Puisque tu y es, c'est pour ça que je te demande.
C'est ça. Non, mais t'as fait raison. Non, mais c'est quelque chose qui est. Il faut se mettre à l'origine que au départ, c'est 5 ou 6 élus qui, en 1960, ont voulu la création du Grand Parc. Alors en 1960, on les a pris pour des fous. Parce que en 1960, eux, ils parlaient de développement durable. Donc ça, c'était pas un mot qui était à la mode. Je sais même pas si c'était un mot qui était une expression qui était inventée. Et en 1960, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, en fait, ceux qui habitaient en campagne, ils fuyaient la campagne pour venir travailler en ville. On parlait pas du tout de développement durable. Et ces élus-là, je crois qu'ils sont six. Ils se sont dit, il faut qu'on préserve la ressource en eau et il faut qu'on fasse quelque chose pour notre territoire, justement pour et préserver et faire un poumon quand on est sur l'autoroute et qu'on voit l'îlot de verdure, ou quand on monte en haut de la Madone et qu'on voit l'îlot de verdure et de fraîcheur que ça représente. Je pense que c'est un vrai poumon vert pour tout notre territoire, et y compris pour nous. Et pour Thiel, on a un tiers de notre territoire quartier sur le grand parc de Michel-Belgeonnage, de l'autre côté du Rhône. Il ne faut pas l'oublier, on a aussi une partie de notre territoire qui est sur le grand parc. Donc il y a de l'agriculture aussi, il y a de la gestion pastorale, il y a des vaches, il y a des moutons, il y a tout ça, on fait du miel, enfin, comment ?
Il y a de la bière aussi.
Il y a de la bière aussi, il y a des œufs, et quand on va manger au Saveur du Grand Parc, ils ont fait aussi maintenant un potager, et puis ils essayent de faire consommer des produits qui sont issus du Grand Parc. Donc je dirais que ça fonctionne, ouais, on va dire. On va dire. Alors des fois c'est un peu compliqué les rapports entre la Ségapal, donc le bras armé, et puis le CIMALIM, le syndicat qui est propriétaire, parce que c'est quelquefois un petit peu compliqué, c'est les mêmes élus mais pas que, donc il y a quelquefois des conflits, mais dans la gestion au quotidien, en tout cas le travail que fait la Ségapal, moi je dirais que ça fonctionne bien. Voilà. Que vous avez d'autres questions concernant l'approbation de ce rapport. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous demander d'approuver ce vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Jean-Marc ?
Non, ça va, très bien.
Michel ? Non. Qu'est-ce que vous regardez sur le téléphone général? Patrice, il y a un score à donner parce que
47-0.
Comment?
47-0.
47-0 pour la France quand même.
Ah oui.
Bon, ça va.
Ah oui, quand même.
Patrice.
Non, 47-0.
Lionel.
Non.
Angélie.
Non.
Delphine.
C'est bon.
Juste pour finir sur la communication, il y a aussi l'action de la police municipale sur l'été.
Oui.
Il faudra aussi qu'on communique comme il faut, parce que c'est vrai que ce qu'ils font, c'est bien. Oui. Et je pense qu'il y a plein de petits lois qui ne le savent pas, parce qu'ils ont les clés des maisons, ils peuvent rentrer dans votre propriété, vérifier si tout est fermé, etc. Ça n'a rien à voir avec ce que fait la gendarmerie.
C'est différent de la police municipale, la nôtre, enfin, celle de Thiel-Bénot. C'est pas l'opération tranquillité vacances que fait la gendarmerie. La gendarmerie, elle passe, elle regarde, etc. Nos agents sont habilités, on peut leur donner nos clés, et ils rentrent. Ils ouvrent le portail, ils font le tour du jardin, ils voient si tout va bien. Quelquefois, ils rencontrent des gens, parce qu'il y a des fois les enfants qui sont venus, donc justement, ils prennent contact. Et en fait, c'est un vrai travail de surveillance. Mais ça, je pense que c'est pas du tout connu.
Non.
Parce qu'il y a très, très peu.
En discutant avec eux.
Ouais. C'est en fait en discutant avec eux qu'on a su qu'on pouvait le faire et que les gens donc, peuvent confier leurs clés, leurs bibles, etc. Et qu'eux font une vraie surveillance.
Non.
Est-ce que ça porte un nom spécifique?
C'est trop bien.
Comment?
C'est OTV, opération tranquillité vacances.
Oui, mais c'est l'opération tranquillité vacances. Je ne sais pas si c'est la police municipale ou si c'est la gendarmerie. En fait, c'est le. Ça doit être l'opération tranquillité vacances, mais ça va jusque là.
Mais par contre, je suppose que si on a une alarme, ils ne viennent pas. Parce qu'ils disent que ce n'est peut-être pas la peine.
Ça n'a pas d'importance. En fait, c'est un peu à la carte. Hein. C'est vraiment en fonction de ce que les personnes veulent donner comme information et comme degré de surveillance, en fait. Merci. Bien, eh bien, je vais clore ce conseil municipal du 21 septembre 2023. Alors, je ne sais plus le montre, il est 21h48. Stoppez l'enregistrement.